Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'y interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment le succès dans tous ses états, au niveau personnel, professionnel, sportif, mental, vraiment j'en passe, on va un peu dans tous les sens. Et mon objectif, c'est qu'en une heure d'écoute, vous retiriez tous les principes, trucs, les routines ou philosophies même de mes invités pour ensuite pouvoir les appliquer à vos propres projets. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu que j'avais prévu de changer de nom pour le podcast. Donc ça va être le cas, même si j'aimais beaucoup Crème de la Crème. C'est aussi le nom d'une start-up avec laquelle j'ai strictement rien à voir. Et du coup, ça portait un peu à confusion. Alors j'ai beaucoup réfléchi, j'ai tergiversé, j'ai mis du temps à me décider. Mais je pense que c'est le plus simple pour eux comme pour moi. Comme ça, on reste bien indépendants les uns des autres. Et du coup, à partir de la semaine prochaine, du prochain épisode, le podcast ne s'appellera plus Crème de la Crème, mais, roulement de tambour, le gratin. Donc voilà, alors du coup faites attention à ne pas rater cet épisode, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est l'occasion ou jamais de pas rater tout ça en vous abonnant et du coup en étant sur le gratin de la semaine prochaine. J'ai choisi ce mot le gratin parce que franchement je trouve ça assez drôle et décalé, c'est toujours évidemment sur la même thématique, un peu crème de la crème, personne exceptionnelle, etc. Mais en plus comme moi je m'intéresse pas mal à tout ce qui est alimentation ou hygiène de vie, je trouvais que ça faisait encore plus sens, donc finalement je suis pas mécontente d'avoir le mot le gratin. Et puis je trouve ça très drôle, donc voilà. Je remercie d'ailleurs au passage tous ceux d'entre vous qui ont été très très nombreux, je dois dire, et qui m'ont aidé sur mon compte Insta, Pelignau, P-L-A-I-G-N-E-A-U, avec plein d'idées de noms. Franchement, c'est top, c'est parti dans tous les sens, c'est assez marrant d'ailleurs. Mais merci à vous, parce que c'est grâce à vos feedbacks que j'ai finalement pu trancher, donc vraiment un grand grand merci. Voilà, j'arrête de parler de tout ça, je passe à mon invité et aujourd'hui j'en suis très contente, vous allez me dire je dis ça à chaque fois, mais pour tout vous dire là quand j'ai réécouté le podcast, quand j'ai fait le montage, j'ai eu beaucoup de mal en fait à résister à la tentation de diffuser tout ça tout de suite et donc voilà, j'ai réussi à le faire mais c'était tellement bien je trouve comme contenu que j'ai dû me réfréner. Donc cette semaine, mon invité est Stéphanie Jiquel, je sais pas si vous la connaissez. Stéphanie est aventurière, sportive de l'extrême, court quand même 200 km par semaine, et c'est la première femme à avoir traversé l'Antarctique à pied sur plus de 2000 km en 73 jours. Impressionnant. Elle a aussi écrit un ouvrage passionnant, On est tous aventuriers, et a été invitée à parler de ses nombreux exploits sur la scène de TEDx, notamment. Elle soutient aussi plein d'associations, et une en particulier dont elle nous parle dans le podcast, qui s'appelle Petit Prince, qui est une association qui réalise les rêves d'enfants malades. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder ça. Si vous voulez dire bonjour à Stéphanie, vous pouvez aller déjà sur son site, qui s'appelle Running to the Pole, comme le pôle nord en anglais, donc running, courir jusqu'au pôle. C'est un site qui est super complet, vraiment je vous invite à le regarder, les photos sont magnifiques. Vous pouvez aussi la saluer sur LinkedIn, sur Facebook, avec le pseudonyme, toujours très simple, Stéphanie Jiquel, Jiquel, J-I-C-Q-U-E-L. Et un des points qui m'a particulièrement intéressée quand j'ai découvert Stéphanie, et c'est pour ça que je l'ai invitée d'ailleurs, c'est qu'avant de devenir sportive de l'extrême, elle avait au fond un parcours assez classique. Enfance à Toulouse, école de commerce, elle finit par devenir avocate. On a l'impression qu'elle a une vie normale et que c'est quelqu'un de normal. Et pourtant, quelques années à peine plus tard, vraiment peu de temps après, c'est ça qui m'a marqué, elle se retrouve à traverser l'Antarctique par moins 50 degrés et à courir des ultramarathons pendant 30 heures de suite. Donc honnêtement, j'ai juste voulu comprendre qui était cette personne, comment est-ce qu'on peut faire un tel saut dans sa vie et pourquoi on arrive à faire ça. Et on arrive à passer surtout à une vie aussi exceptionnelle en tout point. Je trouve en aussi peu de temps. Donc c'est vraiment la question que je me suis posée et en rencontrant Stéphanie, j'ai compris une évidence, c'est que sa passion, sa volonté mais absolument hors norme et son envie débordante de vivre font qu'elle se repousse toujours, toujours plus loin ses limites. Et je pense que même pour ceux que le sport n'intéresse pas particulièrement, cet épisode va vraiment être hyper intéressant. Je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout parce que même s'il est un petit peu plus long que d'habitude, j'ai rarement été aussi impressionnée par quelqu'un. On a parlé d'échecs et de rebonds, de techniques pour ne pas renoncer, de l'instinct de survie, de visualisation, de la faim, la vraie, d'alimentation, des sacrifices aussi qu'elle a dû faire pour suivre sa passion et du fait aussi qu'au fond, l'aventure n'est qu'à un pas, qu'elle soit entrepreneuriale, familiale ou dans la vie amoureuse. Donc absolument passionnant, mais je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Stéphanie Jiquel. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir chez moi. Bienvenue sur le podcast.
Merci beaucoup, je suis ravie également.
Stéphanie, j'ai beaucoup du coup un peu regardé ton parcours. J'ai parlé un peu dans l'introduction de pas tout ce que t'as fait, mais beaucoup de choses que t'as fait. Et en faisant une petite recherche sur toi, je suis tombée sur une phrase en fait que t'avais dite. Et j'ai voulu commencer par ça parce que j'ai trouvé ultra intéressante et je me suis dit que c'était sympa et que tu pourrais rebondir dessus. Donc la phrase c'est « J'ai renoncé une seule fois et je me suis promis de ne plus jamais baisser les bras. J'ai arrêté une course de 180 km au bout de 21 heures alors que j'étais très bien positionnée. Le soir même, je m'en mordais les doigts, mais je sais aujourd'hui que l'erreur a du sens. » Franchement, j'ai trouvé ça hyper fort comme phrase, enfin juste passionnant. Du coup, j'ai plein de questions pour être honnête. Et la première, ça serait déjà pour commencer, que tu me racontes un peu le contexte de cette citation, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'était que cette course, et pourquoi tu la faisais, et aussi pourquoi du coup tu t'es arrêté ce jour-là.
Alors, je pratique la course à pied sur ultra distance. Et effectivement, une fois, il y a quelques années, j'ai abandonné. J'ai vécu un abandon. J'avais pas de blessure, j'avais pas d'accident, rien du tout. J'étais bien positionnée. Mais je crois que ce qui m'a manqué en amont, c'est la visualisation. Et c'est vrai que j'explique souvent en conférence que ce qui est important pour moi pour aller au bout, c'est de visualiser en amont les obstacles que je vais rencontrer. Donc quand on connaît, quand on a déjà vécu une expérience, on peut visualiser, par exemple aujourd'hui, quand je pars sur une course sur ultra distance, je visualise la pluie, je visualise le fait que je vais courir durant la nuit, je visualise certaines douleurs, je visualise les crises d'hypoglycémie, parfois les envies de vomir, je visualise tout ça en amont pour pouvoir justement le surmonter lorsque ça arrive. Et quand je suis partie sur cette course, donc c'était il y a déjà 5-6 ans, j'ai pas visualisé certaines douleurs, notamment sous la plante des pieds et au niveau des mollets, et j'ai abandonné. J'ai abandonné au bout de 140 km.
Non, mais c'est déjà rien que ça, c'est pour ça. On voit que t'es triste d'avoir abandonné, mais t'as quand même couru 140 km déjà.
Alors c'est vrai, mais dès le soir même, en fait, cet abandon, il m'a envahi vraiment l'esprit. Et aujourd'hui, j'y pense encore. Alors j'y suis revenue sur cette course. Ouais. Entre-temps, je l'ai gagnée. j'ai atteint l'objectif à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que ça m'a pas mal perturbée parce que au final, je me rends compte que quand on atteint un objectif, on peut surmonter des obstacles qui sont souvent douloureux, mais on a tendance après coup à les amoindrir. Dès qu'on a atteint un objectif, on a tendance à diminuer finalement ce que l'on a vécu. Quand j'ai traversé l'Antarctique, j'ai vécu des journées entières à moins 50 degrés. Aujourd'hui, je pense que j'atténue en fait ce que j'ai vécu parce que j'ai atteint l'objectif. Quand on renonce, je trouve que c'est la chose la plus difficile à porter parce que on se dit, mais pourquoi, alors qu'on a travaillé pour cet objectif-là, qu'on a préparé, qu'on avait l'envie, parce que l'envie, elle est fondamentale pour atteindre un objectif, pourquoi on a arrêté? Et ça, j'avoue que dès les premières minutes, effectivement, où j'ai rendu mon dossard, je me suis dit, Steph, t'as fait une bêtise.
Ouais, t'aurais fait.
Et ça, pour le coup, aujourd'hui, je crois que c'est grâce à cet abandon qu'aujourd'hui, je vais jusqu'au bout. Parce que, bon déjà, je sais pourquoi j'ai abandonné, donc il m'a manqué la visualisation. Ouais. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je n'avais pas visualisé certaines douleurs. Donc pour moi, elles étaient... c'était pas normal. C'est-à-dire que c'est des difficultés
après,
qui sont arrivées.
Tu peux avoir presque peur aussi.
Et je me suis dit, bon, voilà, ça arrive. J'ai pas envie de surmonter cet obstacle-là, donc j'arrête. Aujourd'hui, je visualise. Alors, je visualise plusieurs choses. Je visualise ce que je connais et je visualise aussi le fait qu'il y aura nécessairement des obstacles imprévus. Et c'est le meilleur moyen, finalement, quand je me retrouve face à ces obstacles, de pouvoir les surmonter, de mettre le stress à distance et de pouvoir me dire, OK, tu n'étais pas prête à cet obstacle-là, mais c'est logique. Il y a toujours des obstacles. Quand tu pars à l'aventure vers quelque chose que tu ne connais pas, il y a toujours des obstacles qui se produisent. Tu ne sais pas qu'ils allaient se produire, mais ils sont forcément là, c'est obligatoire, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, ça m'aide finalement. Je sais pourquoi j'ai abandonné, je sais que je n'ai pas visualisé. Et donc aujourd'hui, la visualisation est ultra importante. Et quand je suis dans un projet, on me dit souvent, mais tu n'as pas envie d'abandonner quand tu es sur une course de 200 km, de 24 heures, quand tu es au milieu de l'Antarctique. Non, je n'ai pas envie d'abandonner. Il y a trop de travail, il y a trop d'envie. Et puis je sais ce que c'est que l'abandon. Et donc finalement, je pense avoir retiré des enseignements de cet abandon-là. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si un jour vous abandonnez, peut-être que cet abandon vous servira. Donc, il ne faut pas rester sur cet abandon, il faut recommencer.
Ouais. Oui, toi, ça a été important dans le processus aussi de refaire
important.
La course, justement, et de la gagner, comme tu disais.
Et ça a été important aussi pour savoir que ce que ça fait qu'abandonner, renoncer... Je pense que je pouvais un peu l'imaginer en amont. Par exemple, quand j'étais en prépa ou quand j'étais... Il y a eu des moments difficiles aussi hein, dans le travail. Donc là, plutôt l'aspect intellectuel de mon parcours, il y a eu des moments qui n'étaient pas évidents. J'avais pas envie d'abandonner. Je pouvais imaginer aussi un petit peu ce que cela pouvait créer. Mais quand je l'ai vécu, je peux vous dire que c'est encore plus fort que ce qu'on peut imaginer. C'est que c'est terrible, surtout quand il n'y a pas de blessure. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc la visualisation, elle est vraiment importante parce que je pense que quand on visualise et qu'on accepte l'obstacle, on a déjà fait la moitié du chemin, c'est-à-dire que personne ne peut enlever un obstacle. Je pense que parfois, on a tendance à se plaindre ou à parler des obstacles, à raconter, etc. Mais finalement, personne ne va les supprimer, personne ne va venir vous aider à les enlever.
Il faut arrêter de penser que c'est pas juste.
Juste les accepter, en fait. C'est comme les vagues de glace en Antarctique. Personne ne peut les enlever. Elles sont là. C'est comme ça. Parfois, on est déposé sur un coin de la côte où il y a beaucoup de vagues de glace. Ben, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Et à partir du moment où on fait cet effort-là d'acceptation, je pense qu'on est capable de beaucoup de résilience et on est capable de surmonter les obstacles, de les franchir, de les contourner, peu importe, mais d'aller au-delà. Donc, il y a une part d'acceptation. Et dans cette course, l'acceptation, elle n'y était pas. Donc, j'ai abandonné. Et voilà, c'est un élément qui est assez marquant dans ma vie de coureuse.
Mais honnêtement, alors là, j'ai 10 000 questions à te poser parce que je voulais parler de ton entraînement. Donc, la visualisation, ça m'intéresse énormément. Mais peut-être si je structure un petit peu... si au fond parlons de ça parce que franchement ça m'intéresse, la visualisation concrètement, comment tu fais en fait, tu te projettes, quand tu prépares tes courses ou même pour l'Antarctique, donc ça a duré plusieurs mois, tous les jours par exemple tu te forces, enfin comment ça se passe, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que ça signifie?
Tous les jours je me force à visualiser. Alors par exemple, donc j'ai traversé l'Antarctique sur 2045 km en 74 jours. En amont, j'ai vécu d'autres expériences dans les régions polaires. L'Antarctique, c'est un peu au-delà parce que c'était beaucoup plus long. Ouais. Les conditions sont beaucoup plus extrêmes. Le continent n'est pas totalement semblable à ce que l'on peut rencontrer, par exemple, en Arctique. Hein. Quand on est en Arctique, on est sur la banquise, l'eau de mer gelée, on franchit des crêtes de compression, c'est beaucoup plus humide, il fait beaucoup moins froid. Enfin, voilà. Les conditions ne sont pas tout à fait semblables. Et donc, en termes de visualisation, j'ai utilisé, par exemple, des livres, notamment le livre de Reinhold Messner. Et tout ce qu'il décrivait, les moments d'angoisse, les moments de doute, les moments où il fait très froid, la faim, l'effort intense, parce que sur une épreuve comme celle-là, j'ai fait 70 heures de sport par semaine. Actuellement, je suis à 15-20 heures, donc il y a un très très gros gap.
Hein. Ouais, c'est énorme.
70 heures par semaine, c'est vraiment énorme, donc on ne se nourrit pas suffisamment pour pouvoir faire autant d'efforts physiques.
Bah, surtout avec le... Avec
et voilà, en plus,
sport, le froid, etc.
Exactement. Et donc, j'ai visualisé que j'allais vivre dans l'inconfort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire visualiser qu'il fera froid tout le temps, qu'on n'aura pas de douche pendant 3 mois, on sera pas confortable, on n'aura pas les vêtements que l'on a envie de porter, on devra manger tout le temps la même chose. Et donc c'est l'imaginer tout le temps, c'est-à-dire se voir dans des conditions. Et alors avec des livres c'est génial parce que, alors il y a des livres qui m'ont fait aller très loin, notamment celui de Reinhold Messner. Quand je visualisais, j'étais même je pleurais parfois parce que je me disais mais tu vas vivre un truc de fou. Et donc il y a eu des moments d'angoisse, des moments où je me réveillais la nuit, où je continuais à visualiser la nuit. Voilà, donc c'est ça la visualisation. Alors après, sur une course d'ultra distance, ce qui est intéressant, c'est que quand on a déjà vécu l'événement, on peut beaucoup plus facilement se projeter. Alors après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aventure, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et avoir toujours des objectifs qui sont nouveaux. Et par exemple, sur une course, je vais toujours avoir pour objectif d'aller plus loin. Donc, soit une course différente, soit aller plus loin en termes de chrono. Il va falloir toujours que je sorte de ma zone de confort en ayant toujours un objectif nouveau. Mais il y a quand même des éléments qui reviennent. Par exemple, dans la course sur ultra-distance, il n'est pas rare de courir sous la pluie, il n'est pas rare d'avoir telle ou telle douleur, il n'est pas rare d'avoir des hypoglycémies pendant la course, c'est totalement normal. Donc, visualiser est pour moi un peu plus facile que quand je pars sur quelque chose de totalement nouveau, parce que j'ai déjà vécu la chose, donc je sais ce que cela fait, et je peux me projeter. Quand on part sur une aventure qui est totalement nouvelle, en l'occurrence, quand j'ai traversé l'Antarctique, j'ai connu la faim, ce que je n'avais jamais connu, parce qu'il faut passer plus de 30-40 jours pour connaître la fin, parce que sinon on peut totalement faire une expédition sur ses réserves. Là, j'ai écouté, c'est-à-dire que j'ai lu, j'ai écouté d'autres explorateurs qui m'ont parlé de la fin, ce qui m'a permis de me dire que j'allais être confrontée à quelque chose que je ne connais pas encore, c'est-à-dire je ne sais pas ce que cela fait sur le corps, mais je vais le vivre. Et donc ça m'a permis de visualiser, d'y penser. Donc tous les jours on pense à la faim, tous les jours on pense à ces obstacles que l'on va rencontrer, les vagues de glace par exemple, on les rencontre en Antarctique. En Arctique, c'est totalement différent. Les crêtes de compression, on les franchit pas de la même manière. Donc, je me suis dit, tu vas devoir franchir des vagues de glace, c'est-à-dire des obstacles qui sont différents de ceux que tu peux franchir dans les Alpes ou bien en Arctique. Et donc, ces choses-là, on y pense en amont et cela permet de se préparer mentalement. En fait, la visualisation, c'est vraiment une préparation mentale parce qu'on a beau avoir l'envie et la préparation physique. Ouais, si on ne visualise pas le chemin, je pense qu'au premier obstacle, on peut rester devant en se disant, finalement, si je suis face à cet obstacle-là, c'est pas normal. Les autres ne sont pas face à cet obstacle-là. J'aurais pas dû le rencontrer. C'est pas de chance. Je vais tout simplement arrêter.
Oui, puis le cerveau humain n'aime pas la souffrance, donc a tendance en plus à...
C'est ça, exactement. Typiquement, quand je me suis retrouvée en Antarctique, sur les 400 premiers kilomètres, il y avait des vagues de glace partout. Et on m'avait dit, les vagues de glace, tu verras, on peut les contourner. J'arrive devant le terrain, je me dis, mais contourner, mais non, on peut pas contourner, il y a des vagues de glace partout. Il se trouve que là où j'ai été déposée, alors j'avais pour souhait d'être déposée au même endroit que Reinhold Messner, mais bon, il se trouve que Reinhold Messner a fait son expédition en 89, ça fait déjà longtemps, donc les vagues de glace, évidemment, elles évoluent sur le continent, et puis l'avion peut pas te déposer exactement sur le même point. Et donc là où j'ai été déposée, il y avait des vagues de glace partout. Le fait de m'être dit qu'il y aurait aussi des obstacles imprévisibles, des obstacles... des choses que je ne connais pas, m'a aidée en me disant, ben voilà, on t'avait parlé de vagues de glace, les autres ont peut-être été déposés dans des points où, effectivement, il était possible de les contourner, moi je ne peux pas, mais je vais quand même continuer, je suis là, j'ai préparé l'expédition pendant 3 ans, je ne vais pas m'arrêter parce que je suis face à des vagues de glace qui sont incontournables et qu'il faut à tout prix franchir. Donc je les franchis les unes après les autres, ça veut dire 2,5 km/h, ça veut dire qu'un traîneau se renverse, il faut se retourner, le redresser, on continue, le traîneau se renverse, on continue. Mais c'est voilà, la persévérance, je pense qu'elle est, elle vient de l'envie, elle vient du travail. C'est-à-dire, plus on travaille, on est allé tellement loin qu'on ne va pas s'arrêter. On a fait trop de chemin pour pouvoir s'arrêter. C'est trop.
Ça, tu pensais, j'imagine, pendant, enfin, on va en reparler beaucoup en détail, mais j'imagine que tout le travail que tu as fourni en amont, la préparation, à la fois physique, mentale, même financière, toute la préparation de l'aventure, c'est quelque chose qui doit quand même te driver. Parce que l'une des questions que je voulais te poser, justement, c'était là-dessus, c'était sur cette volonté. Tu as l'air d'avoir une volonté juste hors norme, complètement hors du commun. Et pour moi, c'était intéressant de me dire, mais comment, d'où te vient cette volonté au fond, et qu'est-ce qui te fait faire toutes ces aventures absolument incroyables qui quand même sont des moments aussi de souffrance. Enfin, j'imagine qu'il y a de la joie, mais c'est pas facile, tu le dis toi-même. Qu'est-ce qui te fait avancer comme ça vers ces aventures? Qu'est-ce qui te donne cette volonté?
Alors, donc, déjà sur la préparation, effectivement, il y a beaucoup de préparation parce qu'en fait, la préparation, elle a pour objectif de limiter le risque. C'est-à-dire que dans tout projet, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet sportif, un projet de famille, il y a toujours des risques. Le risque zéro, il n'existe pas. Alors, c'est vrai que dans des explorations, il y a en plus le risque de décès qui est peut-être un peu plus important que dans un projet entrepreneurial ou autre.
C'est sûr.
Et encore, parce qu'on peut très bien avoir un accident aussi dans la vie quotidienne, hein, ça peut arriver.
Oui, c'est vrai.
Donc, le risque zéro n'existe pas. Donc, le travail, la préparation a pour objectif de limiter au maximum le risque. Parce qu'on part pas en étant inconscient. C'est-à-dire, pour certains, l'aventure, c'est plus il y a de risques physiques et plus tu es dans l'aventure. Ce qui est complètement idiot, parce que dans ces cas-là, il suffirait de partir en Antarctique sans aucune préparation pour vivre une très grande aventure. Mais non, l'objectif des préparations, c'est vraiment de diminuer ce risque. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Et c'est vrai que le risque de décès est peut-être un tout petit peu plus important que dans une autre aventure. Mais bon, ça, on fait avec. Et moi, mon envie était tellement importante que finalement je savais que j'avais un risque d'y rester plus important que sur une compétition organisée par exemple, mais mon envie en fait elle était plus forte. C'est-à-dire que je pense, et c'est pas contradictoire, c'est un pourquoi toutes ces aventures, c'est une passion de la vie en fait qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que j'aime vraiment la vie, et du coup alors je prends des risques. Alors là en l'occurrence c'était des risques à la fois financiers, à la fois physiques, mais pour moi c'est absolument pas contradictoire, c'est parce que j'aime la vie. Et justement c'est ce que je dis dans mon dernier livre, je trouve un peu d'apaisement quand je pars sur ces projets. Pourquoi ? Parce que, alors j'ai pas peur de la mort dans le sens, j'ai pas peur de, du passage de la vie à la mort ou de ce que cela fait que de mourir, mais j'ai peur de ne pas avoir vécu assez.
D'accord.
Et donc en fait, quand j'ai une envie, alors les envies, comment elles naissent ? Elles naissent, je pense, par la curiosité, par l'émerveillement. C'est aussi des concours de circonstances, des rencontres. Quand j'étais à HEC, j'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai rencontré des avocats parce que j'ai fait des stages dans des cabinets. Alors là, je me suis dit, waouh, ça a l'air passionnant, j'ai envie d'aller là-dedans. Puis après, les aventures de la vie ont fait que je suis allée dans des régions polaires. Là, j'ai rencontré des explorateurs, j'ai rencontré des personnes qui évoluent dans ce milieu et qui, du coup, m'ont donné envie. J'ai aussi, à un moment donné, moi aussi, créé un blog de rencontres. Ouais. Donc là, c'était extrêmement passionnant. J'ai rencontré plein de personnes et à un moment donné, elle me parle de certains milieux, de certains domaines. Je me dis, waouh, génial, j'ai envie d'y aller. Donc en fait, c'est vraiment une envie de vivre, une envie de vivre des aventures. Mais c'est pas une envie de se mettre en risque. Parce que c'est vrai, on en parle souvent pour la... J'ai rencontré des personnes qui adorent la highline, la slackline, tous ces sports un peu extrêmes, donc dans l'intensité.
Là, pour le coup, c'est un peu plus sur envie de se faire peur. Ouais,
exactement. Et en fait, moi, j'ai pas du tout ça. C'est-à-dire que, au contraire, une aventure, je vais essayer de limiter le risque au maximum. Maintenant, évidemment, le risque zéro n'existe pas, donc il faut malheureusement faire aussi avec ce risque-là. Mais tant mieux, parce que justement, c'est le risque aussi qui permet de se sentir vivant, je pense. Parce que si on est dans une zone d'habitude où on maîtrise absolument tout, sincèrement, on s'ennuie. Quand il n'y a plus de sens, quand il y a de l'ennui, je pense qu'il n'y a tout simplement plus de vie. La vie, c'est justement prendre des risques, c'est justement aller en dehors de sa zone de confort. C'est là qu'on apprend, c'est là qu'on acquiert la confiance en soi aussi, parce qu'on parle souvent de confiance en soi, on se dit mais est-ce que Stéphanie avait confiance en elle quand elle était toute petite? Non, je pense que la confiance en fait elle s'acquiert à force de faire des expériences, à force d'aller dans des domaines qui sont un peu en dehors de notre zone de confort, on devient de plus en plus confiant. Aujourd'hui, j'ai réalisé une expédition en Antarctique, des personnes comme Mike Horn ou Reinhold Messner ont réalisé des expéditions semblables en Antarctique. Évidemment que si demain j'ai un projet complètement différent dans un autre domaine, je vais me dire, tu as fait ce genre d'expédition, tu peux très bien aller aussi dans d'autres domaines. À partir du moment où il y a l'envie, où il y a la préparation, où il y a tous ces éléments, et puis aussi accepter sa peur et ses doutes, je pense que c'est très important de se dire que la peur, c'est comme les obstacles, elle ne disparaîtra jamais.
Oui, c'est ça.
Elle est toujours
là. C'est ce que tu as l'air de dire, je trouve que c'est assez génial dans la visualisation, c'est que c'est pas tellement le fait qu'il y ait des choses imprévues, qu'il y ait des choses qui te fassent peur, c'est le fait de savoir que ça va arriver et de savoir presque que tu vas avoir peur de, je ne sais pas, par exemple, des vagues de glace, et qui fait que finalement tu arrives à les surmonter. C'est pas le fait de pas avoir peur.
Ouais, je pense que la peur, elle est capitale aussi pour bien préparer, c'est-à-dire que justement encore une fois il n'y a pas d'inconscience, c'est parce qu'on a peur qu'on prépare bien et qu'on évite, qu'on anticipe tous les risques et qu'on y pense en amont de façon à justement ne pas se retrouver devant un événement imprévisible, on essaye au maximum de les éviter en fait ces événements. Donc la peur elle est essentielle, les doutes sont essentiels, le nombre de fois où je doute avant une compétition, avant une expédition,
tu
avant
veux
un
dire,
projet.
Je ne suis pas la bonne personne pour le faire.
Y a des
pourtant
moments,
on a fait tellement, on pourrait penser que
il y a des moments de vertige qui sont vraiment colossaux. Alors ça peut être des doutes avant la compétition, ça peut être des doutes pendant la compétition. C'est des doutes absolument tout le temps. Mais ça, ça fait partie, je pense, je n'ai jamais rencontré un entrepreneur, un dirigeant, un créateur d'entreprise, un sportif de haut niveau qui m'ait dit qu'il ne doutait jamais. Je pense que ça fait partie en fait du projet, de l'aventure. Et je pense que c'est, moi je trouve ça extraordinaire. C'est comme les échecs, c'est comme finalement tous ces éléments qui peuvent sembler négatifs a priori. La peur, les doutes, les échecs, l'abandon aussi.
Ouais,
je trouve que c'est extraordinaire parce que quand t'es passé aussi par des phases d'échecs, tu sais pourquoi tu réussis le jour où tu réussis.
Ouais.
C'est ça qui est top en fait. Si j'avais couru très vite dès le début, dès que je m'étais mise à la course à pied, si j'avais gagné des courses tout de suite, j'aurais même pas su pourquoi je gagnais. Donc j'aurais peut-être été portée par l'enthousiasme autour de moi, les ovations, etc. J'aurais peut-être continué parce que justement ça marche, mais sans être avoir de passion pour la discipline.
Faut que ça fasse sens.
Et j'aurais été portée finalement par les autres. Donc, est-ce que c'est pas finalement le fait de faire plaisir aux autres qui m'aurait conduit à continuer ? Non, là, en fait, il y a une véritable passion. Je suis passée par plein d'étapes, par plein d'erreurs, en fait. Je crois que je les ai toutes faites en matière de compétition, des erreurs d'alimentation, des erreurs d'entraînement, des erreurs de stratégie de course. J'ai, je crois, fait toutes les erreurs possibles. J'ai pas été portée par les ovations. question. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que je suis motivée, parce que j'aime la discipline. Et en même temps, le fait de m'être trompée tout plein de fois me permet de savoir ce qu'il faut faire. Quelle case il faut cocher pour un jour réussir. Et ça, c'est à ce moment-là où en fait tu sens qu'un jour ça va passer.
Ouais.
Ce moment, je pense qu'il est même plus fort que le jour où ça passe en fait.
Mmh. Ouais, c'est ça. Dis, c'est, tu sens que là t'es prête, quoi.
Tu le sens. Mmh. Et tu sens un jour, tu te dis, mais cette compétition-là, je sais que je vais la gagner. Mmh. Tu le sens, tu le sais. Alors tu peux pas vraiment
c'est
en parler.
Parce que j'ai rencontré il y a peu de temps quelqu'un qui va être sur le podcast, donc je communiquerai pas sur son nom, mais qui est championne du monde en escrime, et qui me disait à 16 ans, bon, elle a vu les JO et elle a dit, ce jour-là, j'ai su que j'allais un jour gagner les Jeux Olympiques. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire il y a un jour où tu le sais que ça va arriver, toute ta vie, en fait, va t'amener vers ce point-là. Et il y a un côté comme ça qui est assez fascinant, je trouve. À la fois, il y a plein de doutes et en même temps, une espèce de certitude à un moment que juste ça va marcher.
C'est complètement ça. En fait, c'est une forme d'intuition. C'est comme un flash où en fait, tu te vois réussir. Quand j'ai préparé le projet en Antarctique, par exemple, on me disait que c'était impossible. Alors, toutes les personnes qui n'y croyaient pas parce qu'elles sont loin de ce domaine, il y a celles qui sont dans ce domaine-là, le domaine de l'exploration, mais qui n'osent pas aller vers des expéditions engagées. Donc, ils font toujours les mêmes expéditions, des expéditions de 15, 30 jours, qui n'osent pas dépasser.
C'est vrai que toi, ça m'a énormément marqué dans ton parcours. Je suis désolée de t'interrompre. C'est que vraiment, tu as fait donc, à la fois des ultra-trails, etc. Et l'Antarctique, c'est quand même complètement autre chose. Enfin, t'as vraiment passé un cap très différent, et on sent, tu parles d'aventure, cette soif de nouveauté, de découverte qui est hyper forte, quoi.
Ouais, alors c'est différent déjà de la compétition organisée, parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas d'organisation, dans le sens où il n'y a pas, c'est pas une épreuve. Donc les secours, par exemple, sont très théorique. Typiquement, on signe un contrat pour pouvoir être récupéré au cas où on en ait besoin au milieu de l'Antarctique. Mais si les conditions météo sont mauvaises, aucun avion ne peut voler. Donc tout ça est très théorique. On a des obligations, on verse des fonds, on séquestre des fonds pour des récupérations en cas d'accident. Mais faut-il pouvoir venir nous chercher. Donc il y a toute cette partie-là qui est effectivement plus extrême. Mais ça encore, on le rencontre aussi au Groenland ou en Arctique. Mais il y a aussi la durée qui était très longue en fait pour moi. Et c'était une première en fait de partir sur une durée aussi longue dans des conditions qui sont celles de l'Antarctique, parce qu'après on peut partir en bateau, on peut partir dans des conditions un tout petit peu plus confortables de manière très longue, mais là en l'occurrence il n'y a pas de confort, donc c'est l'absence de confort sur une durée très longue. C'est très proche, je pense, d'un Vendée Globe, encore que un Vendée Globe, par mes discussions avec certains navigateurs, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus d'organisation, mais encore que parfois ils sont dans des situations qui sont très complexes, et voilà, on est un petit peu dans le même type de complexité quand on se trouve au cœur de l'Antarctique. Donc il y a cette nouveauté, mais en même temps c'est ça qui me donne envie. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai envie de partir sur des projets, par exemple des déserts chauds. Moi je sais pas comment on prépare une expédition dans un désert chaud, donc ça va être super. Partir aussi sur des je cours souvent le long de GR, donc j'ai couru jusqu'à 10 jours le long de GR. Ça veut dire courir 45-50 km par jour, donc sur 10 jours j'aimerais faire ça en fait sur plusieurs mois. Donc ça, c'est quelque chose qui va me prendre plusieurs années aussi à préparer, parce que c'est un entraînement physique qui est encore complètement différent. Là, il ne faut plus se concentrer sur le chrono, il faut se concentrer sur la distance et être capable tous les jours d'endurer un certain volume de course. Donc c'est encore nouveau, mais c'est ça qui me plaît en réalité.
Ouais,
parce que
à chaque fois le challenge de la nouveauté. Quoi.
C'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que je maîtrise un peu plus le froid, je maîtrise un peu plus les expéditions dans le froid, je sais comment il faut s'alimenter, comment on atteint l'objectif, comment il faut s'équiper. Je connais aussi les partenaires qui sont intéressés par ce type d'expédition. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'être on peut pas être complètement dans une zone de confort en Antarctique. Ça, c'est sûr que c'est pas possible, mais c'est une zone un peu plus d'habitude pour moi. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis aujourd'hui intéressée par d'autres choses.
L'Antarctique,
tout ça parce que
d'habitude.
La vie, elle est courte en fait. La vie est très courte, et donc j'ai cette envie en fait de j'aime énormément le changement en fait, parce que tout peut. J'ai l'impression d'avoir grandi avec la conviction que tout pouvait s'arrêter demain. Et donc à chaque fois je me dis mais s'il faut tu seras plus là dans un an, donc ton projet il faut le faire tout de suite. On m'a souvent dit quand je suis partie en Antarctique, mais pourquoi ne pas attendre d'avoir 50 ans? C'est vrai que la plupart des explorateurs sont plus âgés, à part Ben et Tarka qui sont aussi deux jeunes qui ont traversé l'Antarctique, qui ont à peu près le même âge que moi, mais sinon c'est plutôt des personnes comme Reinhold Messner ou comme Jean-Louis Etienne. Alors quoi que Jean-Louis Etienne était jeune quand il l'a fait, mais Mike Horn par exemple qui a 20 ans de plus que moi. C'est vrai que généralement les explorateurs attendent un tout petit peu plus parce que c'est le projet d'une vie, donc on attend, on le mûrit sur plusieurs années. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre, en fait. J'ai clairement pas envie d'attendre. C'est génial, une urgence de vivre, vraiment.
Et d'où te vient cette urgence de vivre? Par exemple, tu me parlais un petit peu tout à l'heure de ton enfance. Tu m'as dit quand j'ai grandi, j'avais déjà ça et je sentais voilà, que même dans un an, peut-être que je serais plus là. D'où te vient ce... Est-ce que par exemple, tu peux me parler peut-être de ton enfance un petit peu? Dans quel cas t'as vécu? Je crois que t'es née à Toulouse, c'est ça? T'avais une enfance normale où on a l'impression que t'étais déjà en train de, je sais pas, faire de l'EGR 20 ou les choses comme ça?
Alors, en fait, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question et c'est vrai que souvent, on entend des explorateurs ou des sportifs ou des personnes qui évoluent dans d'autres univers dans lesquels ils se dépassent. Ils ont souvent un déclic. Alors, c'est vrai que moi, j'ai vécu des expériences, notamment au Groenland, il y a quelques années, une expérience très, très dure où j'ai eu un accident où j'ai cru clairement que c'était la fin. Mais c'est à ce moment-là, j'avais déjà envie d'aventure. Donc, c'est cette aventure-là. Alors aujourd'hui, parfois, quand j'y repense, c'est, évidemment, ça vous met dans des situations. Je pleure, je suis absolument pas bien parce que je ressens un stress. J'ai cru que j'allais y passer ce jour-là. Mais c'est pas cet événement-là qui m'a fait prendre conscience que le temps passe vite, et qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait mourir du jour au lendemain, puisque j'étais déjà comme ça avant. Oui. Et donc, je ne sais pas répondre à la question, à vrai dire.
D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, par exemple?
Alors, quand j'étais petite, en fait, j'ai évolué dans un environnement qui n'a rien à voir avec le sport, qui n'a rien à voir avec le monde des affaires, qui n'a rien à voir avec l'exploration. J'ai vécu dans une famille tout à fait normale. On voyageait absolument pas, puisque mes parents n'avaient pas les moyens de voyager. Moi, j'avais une envie, en fait, de voyage. J'avais une envie de Paris, parce que les récits, les livres que je lisais me donnaient l'impression que tout se passait à Paris, que c'était forcément formidable. Donc j'avais une envie de Paris, j'avais une envie de voyage. Et quand j'étais jeune, je me suis dit, mais quel moyen, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cette envie, pour atteindre ce rêve, pour atteindre cet ailleurs dont je rêve? Et un jour, en lisant un magazine qui doit être un magazine type L'Étudiant ou autre, j'ai entendu parler d'HEC et là je me suis dit, waouh, moi j'ai envie de faire cette école. Et là, en fait, pour mon entourage, c'était déjà quelque chose d'impossible. Donc on m'a dit non.
T'avais
mais
quel âge à l'époque?
J'avais 13 ans.
D'accord.
On m'a dit Paris, c'est pas possible, c'est trop loin. Une école de commerce, tu t'imagines pas. Il faut déjà être dans cet univers. Tu n'y es pas. Les enseignants, etc. On me disait c'était pas possible. Pourtant, je marchais bien à l'école, mais c'était trop loin en fait. Et donc j'ai grandi dans une petite ville à côté de Toulouse. Et en fait, moi, j'avais ce rêve. C'était obsessionnel. Je voulais faire cette école.
Et juste HEC. Hein,
juste HEC.
T'avais lu le nom.
Oui, parce que j'avais vu ce nom-là, j'avais compris que c'était le Graal, et donc c'était HEC. Et donc, j'ai mis en œuvre tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour atteindre cette école. Pour moi, je regardais ces jeunes qui sortaient de cette école vraiment avec des yeux qui brillent. Pour moi, ça me paraissait complètement... ça me paraissait impossible, mais en même temps, donc j'avais beaucoup de doutes, mais en même temps, j'avais la sensation que ce destin-là, un jour, je le connaîtrais. Donc, un peu comme la sportive de haut niveau dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et en même temps j'avais le sentiment que les études m'ouvriraient des portes et me donneraient les clés pour pouvoir construire ma vie de voyageuse puisque j'avais envie de voyager. Et je me suis pas trompée parce qu'en fait en école de commerce on apprend à se débrouiller, on vit avec les autres, on est dans des associations, on est ouvert au monde, on voyage, donc c'est là que j'ai voyagé pour la première fois. Et on apprend, on nous donne des clés justement pour construire. Et des expéditions, ce sont des véritables projets entrepreneuriaux. Ouais. Vivre du sport, c'est un projet entrepreneurial parce qu'aujourd'hui, je vis du sport. Donc, il faut pouvoir se débrouiller, surtout quand on est dans un sport qui est absolument confidentiel, qui n'est pas encore aux Jeux Olympiques, malheureusement. Parce que là, donc, il peut y avoir une envie, mais il y a aussi un obstacle qui est que le sport n'y est pas encore. Donc, il faut être indépendant, il faut pouvoir se débrouiller. Et ça, je l'ai appris grâce aux études. Les études donc, m'ont conduit vers Paris, qui était mon rêve, m'ont conduit vers le voyage. Et puis, quand je me suis retrouvée, parce qu'après, je pense qu'il y a un concours de circonstances, quand je me suis retrouvée en école, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens qui évoluaient dans le domaine des affaires.
D'accord.
Et à un moment donné, cette envie-là du monde des affaires est née. Donc, je ne connaissais pas du tout avant ce domaine-là. Et on m'a parlé de private equity, d'opérations. J'ai commencé à lire Les Échos, que je ne lisais absolument pas avant. Ça a été très compliqué en prépa de me mettre à ce type de lecture. Et là, je me suis dit, waouh, mais ça a l'air génial. J'ai envie de comprendre le mécanisme. Et donc, à un moment donné, j'ai laissé un peu ce rêve de voyage, même si je l'ai quand même un peu découvert en école, mais je l'ai laissé un petit peu de côté pour aller vers le monde des affaires. Et là, ça m'a passionnée parce que...
Que tu voulais entreprendre à l'époque ou rien
non,
à voir
pas Non, pas du tout. En me disant, je veux découvrir ce que c'est.
D'accord.
Je veux savoir ce que c'est. Qu'est-ce que, quand on parle d'opération, fusion, acquisition, private equity,
qu'est-ce que c'est
Quelle est la mécanique de ces opérations? Parce qu'en école, on ne nous donne pas toutes les clés. On ne comprend pas, tout simplement. Et donc, moi, j'avais envie de comprendre. Et bon, du coup, il y avait plusieurs options, soit le conseil, soit la banque d'affaires, soit le monde des avocats. J'ai choisi le monde des avocats parce que j'ai fait des premiers stages dans cet univers, que ça m'a plu.
Parce que je voulais t'en parler justement, c'était un petit peu, donc tu as été avocate, ou tu l'es peut-être encore d'ailleurs, je crois qu'on l'est un peu ad vitam aeternam, mais tu es avocate des affaires, dans le droit des affaires, et c'est vrai que cette binarité entre à la fois sportive de l'extrême et avocate des affaires, on me dit mais t'es vraiment Wonder Woman, quoi, parce que avocate des affaires, c'est vraiment les personnes où on sait qu'ils vont travailler énormément, c'est de la fusion acquisition. Enfin, c'est souvent des choses qui sont, qui prennent énormément de temps et où on sait que c'est des personnes qui ont une grosse capacité de travail. Et je voulais comprendre d'où était venue l'envie. Donc là, t'as l'air de dire que, l'avis de devenir avocate des affaires, j'ai l'impression que d'après ce que tu me dis, c'est un peu aussi un concours de circonstances, des rencontres, des opportunités, presque plus qu'une envie juridique entre guillemets à la base.
Oui, alors c'est pas une envie juridique effectivement. C'est plus un concours de circonstances. C'est une envie de découvrir cet univers, de découvrir ce qu'étaient les opérations. Donc il y a vraiment un désir purement intellectuel de découvrir ce que c'est. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que aujourd'hui j'évolue davantage dans le sport que dans le monde des affaires. Mais il n'y avait pas de volonté, par exemple, d'être associé ou d'atteindre tel objectif. C'était vraiment un pur désir intellectuel. Et à partir du moment où je l'ai comblé, c'est-à-dire j'ai compris ce qu'il y avait derrière et ce que c'était, comme j'aime énormément le changement, je suis partie vers autre chose. Mais comme il peut y avoir demain une envie de découvrir un peu plus le marketing, la communication, ce que c'est que la vie en entreprise, parce que moi j'ai évolué dans un cabinet, donc c'est pas tout à fait la vie d'entreprise. Après, tu parlais de Wonder Woman, c'est vrai que je me reconnais pas là-dedans, parce que il y a des choses aussi que, par exemple, j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est le fait que je pense qu'on ne peut pas tout concilier. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, par exemple. Quand j'étais avocate, je faisais beaucoup de sport, mais il y a des choses en sport que je ne pouvais pas faire et que je fais aujourd'hui.
Il faut vraiment faire des choix.
Il faut vraiment faire des choix, et ça, c'est très important. Et accepter, parce que c'est vrai qu'on montre souvent beaucoup d'images de femmes qui réussissent, etc. En fait, la réussite pour moi, c'est vraiment faire ce que l'on a envie de faire, être épanouie, mais on ne peut pas tout faire. Et je pense qu'à partir du moment où on l'accepte, on est beaucoup plus serein, donc on laisse certains rêves dans un coin de la tête. Moi, quand j'étais avocate, j'allais déjà en expédition, mais pas des expéditions très longues, des expéditions plutôt de 2-3 semaines. Et j'avais ces rêves d'expéditions plus longues, j'avais ces rêves de performance aussi sur course à pied, sur ultra distance, mais je les ai laissés dans un coin ma tête. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de réaliser un autre rêve, une autre envie. J'étais dans un métier qui m'épanouissait pleinement, et J'ai juste laissé d'autres rêves dans un coin de la tête. Mmh. Comme aujourd'hui, j'en ai plein d'autres. Il y a des sports qui me donnent envie. L'entrepreneuriat, la création de start-up, ouais, pourquoi pas.
Pour moi, c'est aussi une aventure.
Voilà, c'est une aventure. Mais c'est totalement une aventure. C'est une aventure du quotidien. Et l'aventure, c'est ça. C'est en fait être dans un domaine, et j'imagine que c'est ce que tu vis au quotidien, c'est que parfois, on a l'impression qu'on va tomber. On a l'impression d'être sur une corde où est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, on ne sait pas. Et c'est ça qui est excitant, en fait.
Ouais, bien sûr.
Donc beaucoup de passion, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de risques. Et ça, je peux le vivre dans tout plein de domaines. Je l'ai clairement vécu dans le monde des affaires. Mmh. Donc il faut souvent, c'est ce que je dis quand j'interviens, c'est que on vit des très belles aventures aussi au sein de l'entreprise, aussi dans le monde des affaires. Moi, je l'ai vraiment connu parce que je savais pas ce que c'était que la private equity. Je ne connaissais pas les codes de cet univers. Mmh. Donc au début, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. J'ai appris, ça m'a changé, transformé complètement. Je ne suis pas celle que j'étais il y a 15 ans, c'est clair. Donc j'ai énormément appris et donc l'aventure, je trouve dommage. Dommage aujourd'hui qu'on ne définisse l'aventure de manière restrictive. Alors pour certains, ça va être l'aventure amoureuse, pour d'autres, ça va être l'aventure au sens exploration, mm-hmm. pour d'autres, ça va être plus il y a de risques de mort, plus tu es dans l'aventure, ce qui est pour moi un non-sens total, parce que l'aventure, elle se vit au quotidien. Fonder une famille, j'imagine, je ne l'ai pas vécu, mais j'imagine que c'est une très belle aventure, une très grande aventure, parce qu'on sort de sa zone de confort, on ne sait pas comment faire, on fait des erreurs, avec le premier enfant, on fait des erreurs, on les corrige ensuite. Créer une entreprise, c'est une aventure. Tout ça, pour moi, ce sont des très, très belles aventures. Et je trouve dommage, finalement, de vouloir faire rêver en disant il n'y a que le voyage.
Oui,
c'est dommage parce qu'au final, les personnes qui évoluent en entreprise, qui ont fait ce choix-là, peuvent se sentir finalement enfermées, alors qu'on peut être, et ça, je vous l'assure parce que je l'ai rencontré, on peut être enfermé aussi dans le milieu de l'exploration. C'est-à-dire qu'il y a des alpinistes ou des explorateurs qui font toujours les mêmes ascensions, toujours les mêmes expéditions, qui aimeraient, m'envier parce que j'évoluais dans le monde des affaires, qui aimeraient mais qui ont l'impression que c'est trop tard et qui ne peuvent plus, qui aimeraient vivre en ville mais qui ne peuvent plus. Voilà. Donc il faut vraiment pas idéaliser les univers, et c'est ce que j'évoque aussi dans mon livre, c'est que je pense que le bonheur, il est en soi, il est absolument pas dans une activité. C'est comme l'entrepreneuriat aujourd'hui, on le présente comme c'est un peu le tout le monde en mode start-up. C'est pour moi une aberration parce que ça ne convient pas à tout le monde. Il faut avoir l'envie d'entreprendre, et je pense que l'envie d'entreprendre, c'est pas mais là tu pourras peut-être mieux en parler que moi, mais il faut la passion du produit, mais il faut surtout la passion de l'entrepreneuriat,
bien sûr.
Et après,
d'ailleurs, souvent les entrepreneurs, une fois qu'ils ont passé le cap, c'est pas une fois de plus, c'est pas fait pour tout le monde, mais ensuite ont un peu le virus, sont tombés dedans, et au final, même si il faut être passionné, je pense, par son produit, par son activité, voilà, moi j'adore la joaillerie avec Gémio, mais c'est vrai que là, tu vois, le podcast, c'est une petite aventure entrepreneuriale aussi pour moi, ça n'a rien à voir. Et en fait, je pense que je suis aussi complètement tombée amoureuse de la création, du fait de produire des choses à partir de rien, de développer, de construire. Donc c'est une aventure, comme tu dis, et puis on sait pas quelle chose on va être manger tous les jours, et ça change tout le temps, et on peut pas anticiper, mais on se prépare. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de similarités. Après, de façon très humble, parce que franchement, quand j'ai lu une partie de ton livre, j'ai pas terminé, et que surtout j'ai fait toutes mes recherches sur toi, je pense que tu es extrêmement extrêmement humble quand tu dis quand tu parles de ta aventure, parce que quand même on va dire que c'est l'aventure poussée à l'extrême quand même.
Alors en fait, il y a dans ces explorations beaucoup de persévérance. Il y a de la persévérance dans la préparation, comme on peut le rencontrer pour un entrepreneur qui crée son projet. Il y a de la persévérance sur le terrain. Et puis, il y a, et c'est peut-être là la différence que tu mentionnes, mais là, on le rencontre sur des expéditions très engagées, comme j'ai pu le rencontrer en Antarctique. Ce sont des instincts de survie. Mais en l'occurrence, n'importe qui se retrouverait dans cette situation aurait réagi comme moi. Quand je me suis retrouvée à -50 degrés, que l'équipement n'est clairement pas fait pour résister résister à moins 50 ouais. degrés. Donc on est obligé de skier vite, marcher vite, ouais. faire des mouvements. Dans ces moments-là, il faut sauter sur place, ouais. il faut sauter autour de sa poulka si on est dans une circonstance de brouillard blanc et que l'on peut pas progresser vite. Il y a pas mal de choses ouais. à mettre en place pour pouvoir survivre parce que l'équipement n'est plus résistant hein, pour ce type de température. Mais dans ce moment-là, il n'est plus question de persévérance. C'est-à-dire que c'est pas le mental qui vous porte, c'est juste l'instinct de survie. Ouais. Et dans ces moments-là, n'importe qui se retrouve dans cette situation aurait fait exactement ce que j'ai fait. Donc, il y a ce risque physique, évidemment, dans des explorations, des expéditions engagées. Après, continuer quand il fait très froid, moins 35 degrés, franchir les vagues de glace, lever des fonds, et puis quand un sponsor ouais. vous lâche à quelques semaines du départ, décider quand même d'y aller et continuer à lever des fonds, aller voir des banques pour ouais. des emprunts, avoir des vertiges colossaux parce qu'effectivement, c'est onéreux et on se demande comment on va le rembourser, surtout quand on n'a plus d'activité professionnelle, etc. Tous ces moments-là sont des moments de gros vertige. Mais là, effectivement, on fait preuve de persévérance, de résilience, comme on peut le faire dans un autre projet, un projet entrepreneurial ou un projet sportif. Un sportif qui échoue, qui se blesse avant une compétition, fait preuve aussi de persévérance. Et ça, je l'ai connu, des blessures à quelques semaines d'une ouais. compétition. On se dit comment on va faire. Mais bon, on continue, on se prépare mentalement. Après, c'est vrai que dans une expédition engagée, il y a cette partie d'instinct de survie, de survie tout simplement, qui n'est pas agréable en fait, en réalité, sur le terrain. Mais on n'y va pas pour vivre ces moments-là, non. on y va pour vivre tout le reste. Alors forcément, parfois, il faut passer par ces obstacles. Mais dans ces moments-là, encore une fois, je pense qu'on est au-delà de la persévérance. Je pense que n'importe qui se retrouve dans cette situation survit tout simplement parce qu'on n'a pas d'autre choix. L'abandon, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi, il n'est plus une option mentalement. Mais parfois, sur le terrain, en l'occurrence, quand il fait moins 50 degrés, qu'aucun avion ne peut venir vous secourir, ce n'est pas une option physique. Mm-hmm. Ce n'est pas possible. Et ça, je pense que ça développe aussi une forme de persévérance. C'est-à-dire que, évidemment, qu'après ce type d'expédition, je suis encore plus persévérante au quotidien, comme après certains GR que j'ai pu faire où vous partez, par exemple, sur 45-50 km par jour. Donc, vous prévoyez un circuit. Tous les soirs, vous dormez sous gîte ou autre. Mais si vous êtes à 25 km de votre point de chute, qu'il n'y a absolument rien, et qu'il reste 25 km à courir, vous faites, vous n'avez pas d'autre choix. Donc parfois, l'abandon n'est tout simplement pas une option physique. Quand vous êtes en pleine montagne qui flotte, qui fait très froid, que personne ne peut venir vous secourir à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer à marcher. Donc forcément, au quotidien, quand vous êtes dans des projets, vous ressentez en fait cette forme de persévérance qui s'est construite au fur et à mesure des expériences un peu plus physiques. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'être dans une sorte de tunnel avec une sortie qui s'éloigne, mais je sens que je n'ai pas d'autre choix que de continuer. C'est peut-être cet abandon que j'ai vécu il y a quelques années qui me donne aussi cette envie de continuer, mais c'est aussi le fait d'avoir vécu tout plein d'expériences physiques dans lesquelles l'abandon n'était pas une option possible. Et donc, au final, dans les projets que je construis, je me remets dans ce genre de situation en me disant Stéphanie, tu ne pouvais pas faire d'autre chose que de continuer à avancer quand tu étais à moins 50 degrés. Donc là, tu vas continuer. C'est pas parce qu'il y a un sponsor qui te lâche ou parce que tu es face à telle difficulté que tu vas arrêter. Et même, je trouve que les difficultés, parfois, elles me donnent encore plus envie de continuer.
De la contrainte, souvent, naît aussi la créativité, l'envie, c'est ça. La passion.
C'est ça. Et plus, en fait, alors je pense que c'est pareil dans un projet entrepreneurial, plus vous avez de concurrents, plus vous avez cette adversité, et plus on a envie de continuer, parce qu'on ne peut pas laisser l'obstacle gagner. Ah, clairement, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est vraiment... en fait, je pense que les difficultés et les obstacles sont un point ultra positif, en fait. Tout comme les échecs. Alors, les échecs, ils vous permettent d'acquérir un peu plus d'expérience, de connaissances et de savoir comment faire pour atteindre l'objectif. Et les obstacles, vous ne voulez pas les laisser gagner, donc ils sont là pour vous rendre encore plus résistant, encore plus fort. Et au final, vous êtes invincible. Enfin, je pense que clairement, quelqu'un qui n'aurait vécu aucun obstacle et qui aurait évolué très, très, très loin comme ça, sans aucun obstacle, en fait, je ne sais pas comment va-t-il réagir le jour où il sera face à un obstacle.
Je sais pas. Mal, je pense. D'ailleurs, il y a des histoires malheureusement de jeunes qui ont été brillants dans leurs études, ont été toujours bons élèves et tout, et le jour où il y a une difficulté, bah c'est vrai que c'est hyper dur, parce que je pense que comme tu le dis très bien, la difficulté, finalement la première fois qu'on la vit, c'est hyper dur, et puis au final, au bout d'un moment, on s'y habitue, on apprend qu'elle sert à quelque chose, comme tu disais très bien, ouais. Et c'est pour ça aussi que j'avais adoré cette première phrase que j'ai citée, qu'elle donne du sens, que l'erreur, que l'échec, que la difficulté a du sens. Mmh. Et du coup, je pense que ça se construit, mais c'est vrai que la première fois, c'est, ouais. C'est un peu dur. Je voulais parler un petit peu de l'Antarctique, parce qu'on en a parlé quand même en filigrane pendant là tout le début un petit peu de notre conversation. Et en fait, je voulais juste savoir à quel moment tu t'es dit « je vais me lancer dans une aventure où je vais essayer de traverser l'Antarctique ». Je vais parcourir 2000 kilomètres environ, enfin seule, donc tu l'as faite quand même avec ton mari Jérémy, on peut en parler, sans outils particuliers, donc vous aviez pas de voile de traction, ce qui a été très marquant. En étant en plus la première femme, il me semble que t'es inscrite au Guinness Book des records à cause de ça. À quel moment, donc j'ai compris que t'avais déjà fait énormément d'ultra trail, etc., donc t'es déjà sportive de haut niveau, mais à quel moment quand même tu passes un cap et tu te dis, je vais partir c'était 90 jours, 74 jours. C'est infiniment long. Seul en Antarctique, qu'est-ce qui t'a motivé? Quel a été le processus de pensée?
Alors, je pense que c'est un peu comme pour un entrepreneur. C'est que, alors déjà, il y a eu pas mal de circonstances. C'est-à-dire, j'évolue dans un univers où je rencontre des explorateurs qui vont dans ces environnements. Donc, il y a tout un cheminement. C'est pas né de rien. C'est-à-dire que j'étais avocate et puis d'un coup, je me dis, ah tiens, l'Antarctique, pourquoi pas? Donc, il y a eu un cheminement.
Messieurs, dames, d'ailleurs, ne le faites pas. Si jamais juste comme ça, vous avez envie de le faire. Il faut s'entraîner un peu.
Donc, il y a eu un cheminement. Il y a eu, donc des voyages aussi en Antarctique, plutôt sur les côtes. Il y a eu des lectures de récits aussi, donc Amundsen, Scott, les premiers explorateurs qui ont atteint le pôle sud géographique au début du XXe siècle. Et puis, j'ai eu envie, en fait, d'aller au-delà des livres. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, que les livres, c'est extraordinaire parce que ça vous éveille la curiosité, l'émerveillement, ça vous donne tout plein d'idées. Mais il y a quand même un gap entre la connaissance par l'intermédiaire des livres et la connaissance par l'expérience. Les explorateurs parlaient de la faim, parlaient du froid, parlaient de l'effort physique, parlaient de la beauté de l'Antarctique. Mais je refermais le livre, j'avais l'impression qu'il me manquait vraiment quelque chose. Et aujourd'hui, quand j'ai écrit deux livres, je me suis rendu compte en fait de la difficulté qu'il y a de faire vivre à l'autre une expérience. Il y a toujours sensations. Une frontière, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. D'ailleurs, c'est ce que expriment beaucoup d'alpinistes quand ils reviennent de leur ascension, et ils parlent souvent de solitude, tout simplement parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas partager par les mots. C'est pas possible, en fait. Donc, on le vit à l'intérieur de soi. Et donc, je sentais bien qu'il y a quelque chose que je ne pouvais pas atteindre quand je lisais, quelque chose de l'Antarctique, que je ne pouvais pas connaître la vérité de ce continent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez rigolo parce qu'on est submergé d'informations. Vraiment, moi, je suis noyée dans l'information. Je sais pas comment font les autres pour survivre là-dedans, mais il y a trop d'informations. Mais au final, trop d'informations et plus d'informations, très peu d'informations de qualité. Et donc l'Antarctique, on en parle de plus en plus, mais finalement personne ne sait ce que c'est ce continent. On en parle mais sans le vivre, et moi j'ai eu envie en fait d'aller le vivre de l'intérieur. Alors j'en parlais avec des personnes qui avaient connu plutôt les côtes, des scientifiques notamment, qui me disaient mais quel intérêt d'aller au cœur du continent, il n'y a absolument rien, les conditions sont extrêmes. Toutes les personnes que j'interrogeais me disaient non, on n'est jamais allé au cœur du continent. Alors après, je me suis renseignée un peu plus. J'ai vu que certaines personnes qui sont encore vivantes sont allées au cœur du continent. Aujourd'hui, on est 30 à avoir traversé l'Antarctique. Je les ai contactées. La plupart d'entre elles m'ont répondu. La plupart d'entre elles sont des hommes très, très gentils pour la plupart d'entre eux qui ont accepté de me répondre, accepté de me rencontrer. Et puis un jour, tout simplement, c'est un moment, un instant, on se dit mais oui, je vais faire un gros truc en Antarctique. en fait, et là, on part sur une idée, mais comme demain, je peux avoir n'importe quelle autre idée.
Oui, ça te
tu
prend
sais, au moment où
tu
as l'idée, ouais. tu sais qu'en fait, tu vas partir sur ce
tu
projet.
Tu vas finir par le faire, ouais.
Et donc, c'est pas une idée qui... ça se mûrit pas sur des années. C'est one shot, c'est un instant. Mmh. Et ensuite, on se renseigne, on fait des recherches, on apprend. Et puis, l'idée se transforme en objectif. Alors, ça veut dire quoi, l'idée se transforme en objectif ? Ça veut dire que l'objectif est plus précis. Parce qu'au début, on ne sait pas. On se dit, on va aller au cœur du continent. Mais on ne sait pas combien de kilomètres. On ne sait pas avec quel moyen de progression. On ne sait pas de quelle côte. Tout ça, c'est l'objectif qui se dessine, qui se précise et qui dépend, qui se précise grâce à la connaissance, exactement comme quand on entreprend. C'est-à-dire, quand on connaît, on sait qu'il y a certaines distances qui ne sont pas réalisables durant l'été austral. Faire 6000 km à pied, ce ne serait pas réalisable parce qu'on est tellement lent qu'on ne peut pas faire 6000 km ou alors il faut prendre une voile de traction. Enfin bon, tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure de la connaissance que l'on acquiert sur un domaine. Et donc, l'objectif se précise et donc on met une date, on met un budget. Et puis on construit l'équipe, on s'entraîne. Enfin voilà, tout ça se monte exactement comme un projet entrepreneurial. Voilà, au début c'est une idée,
une envie.
Vraiment, je vois le moment où j'ai eu ce déclic.
Tu peux m'en parler un petit peu.
Alors en fait, c'était une journée vraiment comme les autres, donc une journée de travail. Et je déjeunais avec mon mari à ce moment-là. Et donc, on reparlait de l'Antarctique, parce qu'on parlait souvent de l'Antarctique, puisqu'on était déjà allé sur ce continent. On était déjà allé au pôle Nord, on était déjà allé en Arctique, au Groenland. Et ce jour-là, on s'est dit, toutes les personnes qu'on a rencontrées, nous... Parce que je posais déjà des questions sur le cœur du continent, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées me disaient qu'elles n'étaient jamais allées au cœur du continent et que ça n'avait aucun intérêt, que de toute façon, c'était trop compliqué et que ça n'avait pas de sens, puisqu'il n'y a pas de faune ni de flore. Et ce jour-là, je lui ai dit, mais si, on va aller au cœur du continent Antarctique, on va faire une expédition à ski. Et lui était complètement OK aussi. On est un peu aussi fous l'un que l'autre. c'était parti, quoi.
À partir de ce moment-là,
quand j'ai fini ce déjeuner, je savais qu'un jour, je serais au cœur du continent Antarctique.
Il y a eu combien de temps entre ce moment de déclic et l'expédition ?
Il y a eu quatre ans.
C'est énorme. C'est un vrai projet entrepreneurial.
Ça met beaucoup de temps. Alors aussi parce que j'avais une autre activité à côté. Donc, parfois, les entraînements étaient compliqués. La recherche de fonds, c'était souvent dans la nuit, souvent le week-end. Parfois, les week-ends étaient annulés à la dernière minute. Donc, on reportait ça au week-end d'après. C'était très compliqué de rencontrer aussi les entreprises parce que je n'étais pas forcément disponible en journée, etc. Donc, j'ai mis beaucoup de temps aussi parce que j'avais cette autre activité. Mais cette autre activité, c'était aussi une soupape. C'est-à-dire que moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'équilibre. En l'occurrence, j'avais un équilibre parce que j'avais deux passions en même temps. Alors, on peut pas en avoir 36, là, en l'occurrence, j'en avais deux en même temps à gérer. Et c'est ça qui aussi m'a aidée, je pense. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis partie vers ce projet aussi fou, alors que des explorateurs qui évoluent dans le milieu de l'exploration depuis tout petit, peut-être n'iront jamais. Parce que je pense, en fait, le fait de voir plein de choses très différentes, de rencontrer des gens qui évoluent dans des milieux très différents et qui vont au bout de leurs projets, de leurs envies... je pense que ça me donne aussi cette capacité de soulever des montagnes. Alors que quand on reste trop étriqué dans son univers, finalement, on est peut-être un peu moins ouvert. Et donc, il y a peut-être un peu moins d'idées folles qui naissent. Et on se dit que peut-être c'est impossible. Mais ce que je veux vraiment, ce qui est important pour moi dans les messages à faire passer, c'est que d'un point de départ à un point d'arrivée, je pense qu'il n'y a qu'une question de confiance et de travail. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait des randonnées de 25 km à l'âge de 5 ans pour pouvoir se lancer dans l'exploration. Alors ça va certes être peut-être un peu plus long comme chemin à parcourir quand on évolue dans un univers qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas impossible. C'est juste une question de temps, et quand on accepte que c'est une question de temps, vraiment je pense qu'on peut vraiment faire tout plein de choses et réussir tout plein d'objectifs que l'on se fixe.
Je vais t'en reparler juste après, mais je voulais quand même rentrer un peu plus dans le détail sur la traversée et que tu me parles un petit peu de, par exemple, des moments les plus durs que tu avais vécu. Alors, tu m'as parlé de la faim, tu m'as parlé du froid. Est-ce qu'il y a des choses ou même des moments voilà, tu peux m'en parler, tu me dises un petit peu, mais là vraiment, je me suis dit que j'étais pas sûre de continuer. Ou qu'est-ce qui a été pour toi le plus gros challenge dans cette traversée, ou les plus gros challenges ?
Ce qui a été compliqué, en fait, ça a été au début, parce que en début d'expédition, donc il faut savoir que quand on part sur ce type de projet, on est assez fatigué. Tarka me disait l'idéal, c'est que tu sois reposé au début d'expédition, mais c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de matériel qu'on reçoit à la dernière minute, il y a beaucoup de choses à gérer à la dernière minute, que ce soit en termes de communication avec les sponsors, enfin voilà. Donc on est très fatigué en début d'expédition, et en plus j'ai eu un pépin, puisque arrivé au Chili, je me rends compte qu'il n'y a pas toutes les rations alimentaires que j'avais commandées, donc il a fallu à la dernière minute gérer ce souci-là en plus. Donc tout plein de choses à gérer en dernière minute, et donc j'attrape un virus au Chili, donc une forte grippe, et je commence l'expédition dans cet état-là. Or, c'est en début d'expédition que l'on s'adapte à la température. Donc, on s'adapte au moins 25, au moins 30, au moins 35. Et moi, j'étais extrêmement faible. En plus, c'était la mauvaise période du mois pour moi. Donc, j'avais tout d'un coup à gérer. Et j'étais extrêmement fiévreuse en début d'expédition. Et là, j'ai vraiment douté au plus profond de moi. C'est-à-dire que je connais mon potentiel physique. Mais là, en l'occurrence, on était à l'époque à 8 heures de ski par jour, les vagues de glace qui occupaient tout l'espace, le traîneau qui est plus lourd en début d'expédition, et plus la fièvre à gérer en début d'expédition, je me suis dit, mais tu ne feras pas 200 km sur ce continent. Le problème, c'est que tes doutes, c'est compliqué aussi quand tu pars en équipe. Comment tu en parles ? Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que du coup, ça ne va pas donner... ça peut affaiblir la confiance aussi que les autres en toi, alors que toi, tu sais que tu as les capacités physiques, mais là, tu es en train de vivre un moment un peu dur. Donc, c'était un moment qui a été particulièrement... compliqué à gérer. Vraiment, c'est le moment de l'expédition où j'ai le plus douté. Après, j'ai connu d'autres moments qui ont été difficiles, mais donc une difficulté un peu différente. Ça a été les moins 50 degrés, puisque là, c'était un instinct de survie. Donc là, je ne m'inquiétais plus par rapport à l'expédition. J'avais peur, en fait, tout simplement de mourir. Ouais. Donc voilà. Donc là, c'est des moments où on pleure sous son masque, où on est complètement...
Tellement le froid.
Tellement le froid est saisissant, en fait. Et là, on ne peut pas s'occuper, en fait, de ce qui se passe autour. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment...
concentré sur ne pas avoir de froid.
Ouais, c'est ça. Et donc... on ne sait pas en fait ce que fait l'autre. Enfin, il faut vraiment survivre. Donc c'est un moment de très grande solitude aussi. Donc assez compliqué à gérer. Aussi avec la peur que la température baisse encore, parce que moins 50 degrés. En fait, il y a une très grosse différence. Il faut savoir qu'il y a une très très grosse différence entre moins 40, moins 45, moins 50 degrés. Mmh. À moins 45 degrés, au pôle sud géographique, j'ai fait des photos. À moins 50 degrés, c'est pas possible de tenir pour faire une photo. À force de vivre dans le froid. On finit par reconnaître aussi la température. C'est-à-dire, je savais le matin s'il faisait moins 38, moins 37, moins 36, on a un thermomètre en soi, sauf quand on est très fatigué. Mais quand quand on est à peu près bien, on arrive à reconnaître la température. Donc on devine s'il fait moins 40, moins 42, moins 38. C'est assez intéressant d'ailleurs. Ça veut bien dire que le corps s'adapte à beaucoup de choses et qu'on a des capacités finalement de faire un avec l'environnement et de découvrir beaucoup de choses, mais il faut un certain temps, hein. C'est pas tout au début de l'expédition, mais après 3-4 semaines ça se déroule comme cela. À moins 50 degrés, donc là il y a vraiment un instinct de survie, donc là il n'y a pas du tout de confort. Voilà, c'est des moments qui ne sont pas évidents. Après, il y a d'autres moments de froid qui sont un peu différents. C'est par exemple quand vous vous trompez d'équipement. Alors parfois ça arrive parce que la température peut changer très vite dans la journée à l'Antarctique. Il peut faire par exemple moins 40, puis ensuite ça peut être mieux, moins 25. Et si vous êtes trop couvert et vous ne pensez pas à ce moment-là à enlever une couche... Moins 25, il faut quasiment, sur une expédition aussi longue, il faut quasiment rien porter. Vous portez juste un laine mérino, ça suffit. Votre corps est habitué au froid. D'accord. et vous produisez beaucoup de chaleur en skiant. Donc si vous oubliez d'enlever votre veste Gore-Tex à ce moment-là et que la température est passée de moins 40 à moins 25, là, vous allez avoir très très froid à la pause qui suit. Pourquoi ? Parce que la transpiration givre. Et alors là, ce froid-là, c'est pas le même que celui qu'on a à moins 50 degrés. C'est un froid qui est très inconfortable. Un froid où on n'est pas bien. C'est une sensation d'absence de confort total. Donc là, c'est plus du confort. Le moins 50 degrés, c'est plus de la survie. Donc, c'est deux sensations complètement différentes. Après, la faim, comme tu l'as évoqué, était aussi compliquée. Donc, c'est la première fois que je vivais ça. Je ne peux pas m'en plaindre parce que c'est une expédition que j'ai voulu et je l'ai connue pendant quelques jours. Alors que, malheureusement, on sait que des populations le vivent au quotidien et ne l'ont pas souhaité. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on l'a pas vécu. Donc aujourd'hui, j'ai un autre regard totalement sur ce sujet-là parce que c'est en fait effroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut pas dire j'ai faim quand on a mangé le matin et qu'on attend son déjeuner. C'est pas possible. La faim, c'est pas ça. La faim, c'est en fait c'est obsessionnel. C'est-à-dire que ça vous réveille la nuit alors que vous dormez pas beaucoup. Vous pensez tout le temps à ça et en fait ça vous enlève des capacités intellectuelles, c'est-à-dire que tous les soirs on calculait notre stratégie de course du lendemain qu'on devait toujours remettre à plat parce que pour X raison on était ralenti ou au contraire on avait pu faire plus de kilomètres que ce que l'on avait souhaité, donc on redéfinit notre stratégie de course pour arriver dans les délais parce qu'il y avait toujours une course contre le temps, on avait un délai limité pour faire cette expédition et donc tous les soirs on calcule, mais il y a des moments où en fait même des calculs très simples 2 plus 2 on n'arrive plus et en fait c'est la faim qui fait ça, donc on peut aussi avoir des infections. C'est malheureusement ce qui est arrivé un an après mon expédition à Henry Worsley, un explorateur britannique qui n'est pas revenu de son expédition en Antarctique, qui tentait un truc de fou, lui aussi une expédition à ski sans voile de traction, sur le même nombre de kilomètres que ce que j'ai pu faire, et sans aucun ravitaillement. Donc il avait une poulka qui faisait 100 kilos. Donc le ratio devait être un tout petit peu plus, parce que c'était un homme quand même assez, assez imposant, mais le ratio devait quand même être un tout petit peu plus important que celui que moi j'ai vécu. Et donc son traîneau étant lourd, il était encore plus lent. Et malheureusement, il a été aussi victime de nutrition et déshydratation sur son expédition. En partant en solo, il s'en est probablement pas rendu compte et a appelé les secours trop tard. Mais donc ça, c'est un moment qui est compliqué, la faim à gérer, que j'ai vécu à plusieurs moments de l'expédition, qui est encore une fois difficile à décrire. Mais comme tout événement qui sort un peu de l'ordinaire, en fait, ça peut être des événements.
Si on l'a pas vécu,
ça peut être des événements qui sont heureux, ça peut être des événements qui sont subis, malheureux. Tous ces événements-là qui sont un peu spécifiques, qui sortent du commun, en fait, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir en parler parce qu'on rencontre pas nécessairement des personnes qui ont vécu la même chose, donc c'est pas évident, mais voilà, ça a été des moments qui ont été compliqués. Après il y a eu d'autres péripéties. Moi j'ai eu une rage de dents pendant un mois. Ça fait partie des obstacles imprévisibles. Donc c'est la première fois que j'avais
même avec la visualisation, tu t'étais peut-être pas préparée.
Alors la rage de dents, je l'imaginais pas. En fait, en expédition, on se casse souvent des dents et moi ça m'était arrivé déjà dans d'autres expéditions parce qu'on mange des aliments qui sont très froids et parfois on les mange vite parce que il faut faire vite, tout doit être fait rapidement. En fait, on est sur le qui-vive hein, en permanence, exactement comme un navigateur sur le Vendée Globe, c'est-à-dire que vous n'avez pas de moment de répit. Il faut tout le temps, même le soir, c'est une course contre la montre, c'est-à-dire qu'il faut allumer le réchaud, écrire le texte pour le blog, recharger les batteries avec les panneaux solaires, soigner les pieds, enfin tout est... il faut faire tout très vite parce qu'il faut dormir, donc le sommeil est une obsession, vite, vite, il faut aller dormir. Tout doit être fait très rapidement. C'est un peu différent d'une expédition en kite. Et encore que le kite est aussi c'est très dur. Hein. Donc c'est
le kite,
autre,
en fait, c'est quand tu es tracté par une voile. Donc
exactement.
C'est ça,
alors ça, c'est aussi une des expéditions qui sont très difficiles parce que quand vous partez en kite, vous pouvez chuter, vous avez des risques de chute qui sont beaucoup plus importants. Donc c'est une expédition qu'a faite Mike Horn d'ailleurs récemment, une expédition en kite qui a traversé l'Antarctique. La petite différence par contre, pour en avoir parlé notamment avec Frédéric Dion, un autre explorateur canadien qui lui est parti en kite aussi la même année que moi, la petite différence, lui me disait par exemple, j'ai beaucoup de temps sous la tente. Dès qu'il n'y a pas de vent, j'ai du temps sous la tente. Donc quand il est arrivé au pôle sud, il est arrivé en même temps que nous. Il était rasé. Enfin bon, lui, il était très très beau. Nous,
alors
pas
que
du tout.
Vous étiez dans un état pas possible.
Nous, on était dans un état pas possible. La façon dont les scientifiques nous ont accueillis, j'ai bien vu qu'on était dans un état pas possible. Voilà, parce qu'on a ce temps en plus qui permet justement de faire fondre de la glace, donc faire un peu d'eau, etc. Nous, on avait n'avait même pas suffisamment de temps pour faire fondre suffisamment de glace pour pouvoir s'hydrater correctement. Parce que quand on skie entre 12 à 16 heures par jour, le temps en fait de faire fondre la glace, c'est trop long. Et comme il y a en plus le sommeil qu'il faut gérer,
Vous buviez juste pas assez ou
À la fin de l'expédition, on buvait pas assez. Donc après, des fois, on mange de la glace aussi, ça peut se faire, mais ça fait assez mal au ventre. Mais il y a des moments où il n'y a pas trop le choix, notamment quand on arrive sur les derniers créneaux de la journée. Mais voilà, tout ça pour dire que ça, ce sont des moments qui sont compliqués. La rage de dents, on se casse des dents. Il y en a une, malheureusement, qui a...
La fièvre et la rage de dents, t'as pas été épargnée.
Voilà, c'était pas au même moment, heureusement. Mais ça, c'est pas agréable. C'est sûr que c'est pas agréable. C'est pas agréable, mais c'est un obstacle. Alors que le moins 50 degrés, là, j'étais vraiment en situation de survie. La rage de dents, on sait que c'est pas ça qui va,
Tu te dis jamais que c'est ça qui
juste,
va faire que
c'est
tu vas
douloureux,
arrêter.
En fait. Mais c'est quelque chose à supporter en plus. Alors peut-être que aussi ce sont ces petites choses qui font que on persévère, parce que quand on a une rage de dents, peut-être qu'on pense un peu moins au fait que ce matin, aujourd'hui, il va falloir skier 12 heures. Oui. Skier 12 heures, ça veut dire 12 créneaux d'une heure entrecoupés de pauses de 10 ou 7 minutes.
J'ai demandé justement à quoi ressemblait la journée type, entre guillemets, en Antarctique. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à visualiser que vous viviez au quotidien, à quelle heure vous vous levez, enfin...
Alors l'heure, elle dépend du moment de l'expédition. Donc en début d'expédition, on était à 8 créneaux d'une heure. En fin d'expédition, 16 créneaux d'une heure. Donc déjà, l'heure, elle dépend de ça. La première chose qu'on fait, c'est faire fondre de la glace dès le matin. On en a fait le soir, on en refait le matin. On prend un petit déjeuner, un porridge bien calorique. On s'habille, donc on sort du sac de couchage. Un sac de couchage à moins 40 degrés, dans lequel on est déjà habillé, mais il faut rajouter donc les équipements type salopette Gore-Tex et veste Gore-Tex par-dessus. Ensuite, on plie la tente, on range tout ça dans les traîneaux, sachant que les traîneaux sont rangés de manière très, 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 très ordonnée. Il faut savoir exactement où sont les choses, il faut connaître parfaitement son traîneau. Donc, il y a des petits réglages qui se font en début d'expédition en général, et après, on arrive bien à trouver son équilibre. Pourquoi ? Parce que quand il fait très froid, quand il y a beaucoup de vent, il faut pouvoir trouver précisément ce que l'on cherche dans son traîneau. En plein milieu de journée, on peut avoir le masque qui givre, par exemple. Donc, on ne peut pas le mettre sur son front parce que sinon, on a une gelure aux joues ou au nez. Donc, il faut pouvoir changer de masque. Ça aussi, l'idéal serait d'en porter 15. Oui. Mais on n'en a pas 15 dans son traîneau parce que c'est trop lourd à porter. Donc, il faut trouver, au fur et à mesure des expériences, on arrive à trouver le nombre qui vous convient bien. Et ça dépend des explorateurs pour pouvoir changer justement son masque en milieu de journée. Mais là, il ne faut pas que le masque soit au fond du traîneau parce que vous perdez encore plus de temps. Il faut s'imaginer qu'à chaque fois que vous enlevez un gant, vous avez froid, des fois vous avez plus de sensibilité au bout des doigts, vous êtes des fois en situation de stress. Après, il faut pouvoir suivre aussi, donc l'idée étant de faire tout très vite pour pas se perdre de vue. Quand il y a du brouillard blanc, on a encore plus de risques de se perdre de vue. Donc tout ça se gère. Donc il faut avoir un traîneau bien rangé. Donc ça, en début de journée, on fait toujours attention à remettre les choses à l'endroit où elles doivent être. Et puis on part donc pour 8 à 16 créneaux d'une heure. Donc par exemple, une journée de 8 créneaux, ça va être une heure de ski, on s'arrête pour boire, pour manger. Donc on a un thermos qui permet de garder l'eau en état liquide. Et puis on mange, donc on peut manger des graines, des fruits secs, du chocolat, des choses qui peuvent se manger assez rapidement. Et puis on repart sur un créneau d'une heure. Donc là on alterne, c'est jamais le même qui navigue, de façon à pouvoir se reposer, entre guillemets, parce que celui qui est devant fait la trace. Donc il y a à certains moments de l'expédition, alors, parfois on navigue sur la glace, mais parfois on navigue aussi sur de la neige un peu plus profonde, donc il y a une trace à faire. On a la boussole quand on est devant. Le GPS, on l'allume, mais de manière très ponctuelle parce qu'il faut le recharger avec des batteries.
Oui, la batterie doit
donc on navigue avec une boussole. Et puis, ce qui est compliqué, c'est la navigation dans le brouillard blanc parce qu'on n'a plus de repères. Sinon, le reste du temps, on peut se repérer aux nuages, aux vagues de glace, au soleil, etc. Quand il y a plus de soleil, quand on est dans le brouillard blanc, il faut regarder beaucoup plus souvent sa boussole. Donc, il y a cette complexité justement de regarder la boussole. On est beaucoup plus lent du coup. Donc ce genre de conditions. Et puis là, en milieu de journée, alors aussi, ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que tous les explorateurs ne font pas ça. Mais moi, je pense que ça a été une des clés du succès de cette expédition. Donc là, on rentre plus sur des aspects techniques. C'est le montage de la tente entre midi et deux. Alors, je dis entre midi et deux, en fait, on reste 40 minutes sous la tente, donc c'est plutôt entre midi et midi 40. Mais ça, c'est important parce que ça vous permet d'avoir un objectif intermédiaire.
Oui.
C'est pareil quand on part sur une expédition comme celle-là, et c'est vrai aussi sur une course d'ultra-distance. On ne pense pas, quand on part sur une course de 200 km, on ne pense pas au 200e kilomètre au début. Sinon, vous ne tenez pas. Donc, vous pensez au prochain ravitaillement qui est 20 km après. En expédition, vous pensez à l'heure suivante. Vous pensez au midi.
Vous pensez au soir. Vous pensez au soir.
En fait,
à des petits objectifs oui, assez courts juste après, quoi. Même en ultramarathon.
Je pense en fait à mes petits objectifs. Alors là, en l'occurrence aussi en Antarctique, je pensais à l'article pour le blog tous les soirs. Donc ça, c'était une petite prouesse parce qu'en fait, la plupart des explorateurs ne s'embêtent pas en fait.
Enfin, c'est vrai que tous les jours, c'est impressionnant.
Donc tous les jours avoir pu poster un texte. Donc déjà d'un point de vue technique, moi, j'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Et puis finalement, c'est passé par téléphone satellite et l'utilisation d'un access point. Aussi un petit modem et puis une amie en France qui mettait ses articles puisque moi j'avais pas accès à internet hein, ouais. Donc je lui envoyais ça par voie de communication satellite et elle mettait cet article là donc ça a été assez motivant parce que il fallait trouver des idées tous les jours originales qui sortent de je me lève à 7h jusqu'à 8h qui auraient ennuyé éperdument le lecteur donc il fallait trouver des idées originales sachant que moi j'avais absolument aucune nouvelle de mes proches, aucune nouvelle de l'actualité aussi donc ça en janvier 2015, par exemple, je n'avais pas de nouvelles de l'actualité. C'est une des premières choses que j'ai apprises quand je suis rentrée. Une des premières choses que l'on m'a dites, hein, les attentats. Donc ça, je n'avais absolument aucune connaissance. Alors pourquoi, d'un point de vue technique, ce serait possible hein, d'être au téléphone satellite tous les jours pour avoir des nouvelles. Mais ça vous sort de l'expédition. Une mauvaise nouvelle peut vous donner envie tout simplement d'arrêter, de ne pas vous battre. Il faut savoir aussi qu'il y a un gros gap avec celui qui reste en France, c'est que celui qui reste à domicile, les amis, etc., ne peuvent pas imaginer en fait l'isolement dans lequel vous vous trouvez, parce que vous mettez un article tous les jours sur le blog, donc on a l'impression que vous êtes à côté, et donc on peut vous annoncer n'importe quelle nouvelle sans aucun filtre. Or, vous êtes seul, isolé, avec un avion qui peut-être viendra ou viendra pas si vous l'appelez, tout dépend des conditions météo, donc très peu de possibilités de secours. Qu'est-ce que vous faites avec une mauvaise nouvelle une fois que vous avez raccroché
Et donc vous avez fait ce choix donc, de ne pas communiquer.
Moi, je pense que c'est ultra important. Donc, je pense que c'était aussi une des clés du succès. L'attente le midi, ça, à mon sens, c'est très important. Et puis pour se réchauffer
vous
aussi.
Vous vous reposez en fait dans l'attente.
Oui, pour manger en fait, manger un tout petit peu plus.
Un peu plus au chaud.
Ouais, clairement, manger un peu plus. En fin d'expédition, faire fondre davantage de glace puisqu'on n'avait pas le temps le matin de faire fondre suffisamment de glace pour toute la journée et donc ça c'était important aussi de le faire le midi donc ressortir le réchaud donc ça prend aussi du temps etc. Et puis en fin de journée aussi un élément qui à mon sens m'a semblé important mais là on rentre vraiment dans la technique ça intéresse surtout je pense les explorateurs mais c'est mettre le réchaud dans la tente je pense que ça c'est vraiment important alors souvent on le met dans le vestibule on le met à l'extérieur pour éviter justement que la tente prenne feu ou des choses comme ça mais moi j'ai trouvé que le réchaud à l'intérieur de la tente c'était un avantage pour la chaleur en fait avoir un tout petit peu plus chaud c'est fortement agréable en fait voilà
dans
c'est des petits trucs
dans une période où comme tu disais il y a quand même pas beaucoup de moments de confort quand tu peux avoir ça
donc ça c'est vraiment un tout petit truc après il faut que chacun trouve ses trucs qui le rendent heureux qui lui apportent de l'énergie moi je pense que le texte sur le blog m'a beaucoup aidé l'écriture c'est-à-dire que je commençais déjà à écrire des phrases du livre dans ma tête et puis il y a des moments où tu peux tout simplement pas penser à autre chose parce que c'est les conditions sont trop extrêmes quand t'es à moins 50 degrés, t'as le vent à 80 km/h, là en l'occurrence tu penses vraiment à plus rien, mais c'est comme quand tu te retrouves sous la pluie, sous l'orage en pleine montagne, que t'es dans un ultra trail qu'il faut continuer, à ce moment là tu penses juste aux conditions fait que, enfin voilà, il faut juste avancer donc ces moments là sont particulièrement éprouvants, mais après le reste du temps par contre ce qui est intéressant c'est le fait d'être, en fait quand t'es dans un environnement qui paraît être monotone mais qui en réalité ne l'est absolument pas. c'est que tu apprends aussi à remarquer les détails, et ça, je trouvais ça très intéressant, d'être dans un environnement où le soleil, la lumière n'est jamais la même, n'est jamais identique, en fait, d'un jour à l'autre. Les vagues de glace sont jamais les mêmes. Des vagues de glace qui sont des véritables sculptures, qui sont absolument magnifiques. Je me souviens un jour être passée, ça a duré qu'une journée, malheureusement, être passée dans une sorte de labyrinthe, c'est-à-dire que les vagues de glace étaient tellement hautes qu'en fait, on était à l'intérieur des vagues de glace. Tout le reste du temps, c'était différent. C'est-à-dire qu'on pouvait les franchir ou les contourner. Ouais. Elles étaient toutes petites, 30, 50 cm. Parfois, il y en avait qui étaient très loin de 2 mètres, mais on pouvait de toute façon les contourner. Puis à un moment donné, on est arrivé dans un endroit où, pour le coup, les vagues de glace étaient très hautes. Mais on pouvait, il y avait un chemin à l'intérieur des vagues de glace. Donc, on a pris ce chemin à l'intérieur et sans trop savoir où aller. Donc là, pour le coup, on ne suivait plus la boussole, on suivait le chemin. Et en fait, c'est juste extraordinaire, c'est juste magnifique, c'est des moments qui sont absolument inoubliables. Mais si tu ne vis qu'un jour en Antarctique et que tu es déposé là, par exemple, tu vas pas forcément trouver ça extraordinaire.
Ouais.
Mais quand tu passes 74 jours dans ces univers, tu apprends à remarquer les détails. Et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé au retour qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Enfin, moi, je n'arrive pas à capter toute l'information. Mmh. Alors déjà, bon, l'information, évidemment, la connaissance qui est accumulée sur les réseaux, etc. Mais même dans le paysage, même dans la façon dont on a agencé les espaces, il y a trop trop d'informations, je sais pas comment on la capte, toute cette information. Pour moi, il y en a trop. Je me lasserai pas de marcher dans Paris, de regarder tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce que l'homme a construit.
Je pense que c'est un vrai sujet pour notre génération et les générations à venir, tellement d'informations, un surplus d'informations qui crée aussi plein de problèmes, de distractions,
c'est ça.
D'aussi d'arrêter de penser, finalement, en fait, les gens sont tellement en permanence dans la consommation de l'information qu'ils arrêtent de produire aussi un petit peu. Enfin bon, c'est...
Ouais. Alors que là, quand on se retrouve pendant 3 mois dans un lieu qui peut sembler monotone au premier abord, c'est vrai que les pensées, elles viennent à vous. Ouais. Mais c'est des choses qui n'arrivent plus dans la vie quotidienne parce qu'on a tellement de choses à faire. Là, en fait, on peut juste rêver, repenser à toutes ces expériences. Et ça, j'ai trouvé aussi qu'avec l'écriture, c'était intéressant. C'est que quand on vit des expériences, on franchit un cap, on acquiert beaucoup d'expériences, de maturité, de connaissances sur soi, sur l'environnement. Mais quand on a le temps de penser à toutes ces expériences, de revenir sur elles, on franchit encore un cap supplémentaire. Mmh. Donc déjà, vivre des expériences, vivre le changement, c'est super. Mais quand on peut en plus y revenir et on prend de moins en moins le temps de revenir sur l'expérience qu'on a vécue, je trouve qu'on franchit encore un autre cap qui est assez intéressant. Et ça, typiquement, dans ce type d'expérience en Antarctique ou sur les courses ultra distance, on a le temps vraiment de penser. Alors, avant de vivre ça, évidemment, il faut avant de pouvoir vivre ces moments de pensée, il faut s'entraîner beaucoup pour être à l'aise. C'est-à-dire que
être seul avec soi-même, c'est pas toujours facile.
C'est sûr que quand je pars, je cours 50 km. La première journée de course, je vais être vraiment bien parce que ça va. Je me suis reposée les jours avant, etc. Et donc je peux accéder à ce corps à corps avec la nature, à cette forme de pensée qui est super agréable. Bon, c'est sûr que si c'est la première fois que l'on se met à courir 50 km, on va pas vivre la même chose. Je l'avoue, mais il faut passer effectivement par cet entraînement-là pour accéder à ça. Mm-hmm. Mais bon, ça fait partie c'est le chemin en fait que l'on suit vers cet objectif. Et si si on a envie en fait de vivre ce corps à corps, on passe par ces entraînements et on le vit très bien.
Ben justement, pour terminer, parce que je vais pas te retenir trop longtemps, je voulais juste terminer par te poser quelques petites questions sur un peu ton entraînement. Alors, bon, à la rigueur, peut-être qu'on refera une autre interview pour parler de l'entraînement pour l'Antarctique. Et puis, j'ai encore plein de questions à te poser, franchement, sur comment tu l'as monté, entrer plus dans le détail des sponsors, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Mais peut-être plus maintenant que tu es revenu. Alors, je sais que tu as toujours des aventures en tête, mais que tu es revenu en France. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton entraînement au quotidien? Parce que j'imagine que tu continues à avoir une activité physique importante, même sans avoir pour projet de repartir en Antarctique tout de suite. Est-ce que tu peux un peu me décrire aussi à quoi ressemblent tes semaines d'entraînement ou même une journée type? Est-ce que tu fais du sport tous les jours, ce genre de choses?
Ouais, alors sport tous les jours, il faut, dans l'idéal, c'est bien de garder quand même une journée de récupération, une journée de repos, mais c'est une journée de repos où je fais quand même du renfort, où je fais quand même des petites choses. Mais effectivement, donc après, il n'y a pas vraiment de journée type ou de semaine type, parce que par exemple, à un mois d'une compétition d'ultra-distance, je peux partir 4 à 6 ou 7 jours le long d'un GR, mm-hmm. le long d'un chemin de grande randonnée, pour faire 45 à 50 km par jour. C'est une manière en fait de fractionner une longue distance sur mm-hmm. plusieurs jours, ce qui mm-hmm. me permet en fait de mieux me préparer pour le jour de la compétition, pour pouvoir faire la distance d'un mm-hmm. coup. Donc ça, c'est idéal. Donc ça, c'est un type d'entraînement. Durant l'hiver, je vais faire davantage de vitesse, donc entraînement sur piste, du fractionné, en course à pied, des cross.
Beaucoup de
course à pied. Après, je ne fais pas que de la course à pied, il y a aussi du vélo, un petit peu de natation, de la marche rapide aussi, c'est important, mm-hmm. Du renforcement, de la muscu, de la boxe. Voilà. Donc, je suis en moyenne à 15 à 20 heures de sport par semaine, avec en principe du bi-quotidien, sauf exception. Typiquement, quand je pars sur un GR, mm-hmm. Je fais les 45 km d'un coup.
Ça
mais
prend un petit peu de temps, du coup.
Voilà, je ne fais pas de renfo ce jour-là. Donc, en général, du bi-quotidien, voire du tri-quotidien quand il y a un autre sport, c'est-à-dire quand je couple le running avec la boxe, par exemple. Mm-hmm. Mais après, il n'y a pas de journée type. Ça peut être des sorties longues. Ça
t'as
peut
un
être
entraînement
du
qui est très cadré, ou c'est où tu le fais un peu au fil de l'eau, ou tu
alors, en
t'y
fait,
réfléchis quand même.
Non, j'y réfléchis. Ouais, exactement. En fait, j'y réfléchis, c'est-à-dire que j'ai un entraîneur dans chacune des disciplines. Par contre, l'ultra distance, je la gère seule parce que j'ai acquis de l'expérience et que c'est très compliqué. Enfin, j'ai pas réussi en fait à m'encadrer pour cette mm-hmm. discipline-là, et puis j'ai acquis de l'expérience. Donc, du coup, ça pour le coup, les sorties longues ou les GR, je le gère toute seule. Mais le reste, effectivement, on a un programme. Donc, en fonction d'une compétition, en fonction d'un projet, on prévoit un programme. Alors, il faut être souple vis-à-vis du programme, c'est-à-dire que parfois une blessure ou une douleur fait que il faut pas se stresser si on peut pas complètement appliquer le programme. Alors ça, c'est très compliqué pour quelqu'un qui est perfectionniste de se dire non, là il faut vraiment que je me repose, mais en réalité je me suis rendu compte que il n'y a pas une seule compétition que j'ai faite sans avoir une blessure quelque temps avant, ou une douleur, donc j'ai changé, modifié, adapté le programme en fonction d'eux, et au final ça s'est bien passé. Donc il faut pas être et ça je pense que c'est vrai pour un entrepreneur aussi, il faut accepter la souplesse, c'est très important, très très important, parce que partir sur un entraînement, aller faire 20 km alors qu'on a une douleur et qu'on sait que c'est pas bon, mais que c'est écrit, donc il faut qu'on y va parce que c'est écrit, ça c'est vraiment le mauvais plan. Donc il faut garder beaucoup beaucoup de souplesse, c'est pas évident pour c'est clair que c'est pas évident pour les gens qui sont perfectionnistes, c'est pas évident pour ceux qui sont hyper scolaires, c'est pas évident quand on a envie de réussir et qu'on se dit il faut à tout prix appliquer le programme, mais vraiment c'est un
point
important.
Puis à quel moment tu dis en fait c'est une douleur qui est suffisante pour que je m'écoute, ou en fait non, il faut que je sois disciplinée? Alors, je trouve que c'est très difficile de savoir faire la part des choses.
C'est très difficile, mais après c'est une question d'expérience, c'est-à-dire que je sais aujourd'hui, en fait, je sais aujourd'hui, ouais, je le sens en fait. Je sens ce que je peux aller faire, ce que je peux pas faire. Il y a beaucoup de choses que je sens, voilà, c'est compliqué à expliquer, mais du coup, je me suis énormément trompée, puisqu'il y a des fois, je me souviens être partie sur des courses avec des douleurs, notamment au genou. C'est totalement une erreur, puisqu'après la course, je pouvais plus marcher. Il y a eu des étapes où je me suis clairement trompée, mais aujourd'hui je sais, donc voilà, c'est j'arrive un peu mieux à le gérer.
Et comment tu juste encore sur ce sujet, ça m'intéresse, moi je suis un peu de la course à pied, mais j'ai honte de te le dire, parce que si je cours 15 km je suis fière de moi, si tu veux, mais comment tu fais pour éviter les douleurs, parce que je me dis, mais courir 200 km, même 50 km, comment tu fais? Est-ce qu'il y a des techniques, peut-être des livres aussi, je sais pas, ou des choses que tu pourrais recommander pour les personnes qui courent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, qui me disent qu'ils font de la course à pied, d'ailleurs qui l'écoutent en faisant de la course à pied, et qui souvent ont mal au dos, mal aux pieds, mal aux genoux, mal aux chevilles, qui se blessent aussi au bout d'un moment. Toi, tu cours parfois 200 km et j'imagine que t'as mal, mais t'arrives quand même à t'en sortir. Il y a peut-être des choses à faire pour éviter de souffrir.
Alors déjà, il faut y aller vraiment progressivement. C'est-à-dire que quand on se met à la course à pied, au début, il faut faire une séance, ensuite deux séances par semaine. Il ne faut pas se mettre du jour au lendemain à du 80 kilos semaine, voire du 200 comme ce que je fais, parce que ce n'est pas possible. Là, aujourd'hui, j'ai envie, pour certaines compétitions, il me faut passer à plus, de manière temporaire, c'est-à-dire sur une courte période, il va falloir que je passe à plus. Je ne vais pas le faire du jour au lendemain, parce que je sais très bien que si je le fais du jour au lendemain, je vais casser beaucoup de fibres, je vais me faire mal, et ça ne passera pas. Et donc la compétition elle sera ratée. Donc il faut vraiment y aller petit à petit, et donc ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire qu'avant de faire une compétition sur ultra distance, les premières fois on ne sera pas suffisamment entraîné, donc on va peut-être arriver au bout, mais on n'aura pas le chrono qu'on veut. Donc ça peut prendre du temps, et en fait c'est vraiment une question de temps. C'est-à-dire que pour éviter la blessure, il faut prendre le temps de faire les choses. Se mettre au sport en faisant trois séances semaine du jour au lendemain, à mon sens, c'est contre-productif, c'est la blessure assurée. Donc, il faut y aller vraiment petit à petit. Et puis aussi, accorder beaucoup d'importance, déjà à l'alimentation, essayer d'éviter l'alcool quand on fait du sport, notamment avant une compétition, après
ça
une compétition,
beaucoup,
pour éviter les tendinites, etc. Et puis aussi, le sommeil est ultra important. Et ça, moi, j'ai été malheureusement confrontée à cette difficulté longtemps, puisque j'ai exercé un métier qui était très prenant et je sortais très tard le soir, etc. Mais en fait, le sommeil est vraiment le meilleur allié du sportif. Dans l'idéal, il faut dormir 8 heures. Un sportif de haut niveau, il dort plus. Il fait une sieste tous les jours. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'éviter la blessure et d'être capable aussi d'engranger beaucoup de volume, beaucoup d'heures de sport. C'est le meilleur moyen avec la nutrition de passer ce cap-là. Donc, il y a beaucoup de repos, beaucoup de récupération.
Ouais, c'est hyper intéressant. Voilà. Et juste sur la nutrition, quand tu fais autant de sport, tu dois forcément avoir une nutrition qui est assez encadrée, j'imagine.
Ouais.
Tu peux pas te permettre du tout de manger n'importe quoi.
Non.
T'as un peu un régime type.
Ouais,
où,
alors
là
je fais attention. Le régime aussi est modifié à l'approche d'une compétition.
Ouais,
donc
bien sûr.
Plus du tout de sucre à une semaine, puis de nouveau du sucre à deux jours de la compétition, des glucides. Je fais très attention. Et après, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que il y a eu une époque où dès que je partais sur beaucoup de volume, quand je faisais 180-200 par semaine, je mangeais énormément. Alors tout le monde était impressionné de la capacité. Je mangeais, toutes les personnes qui étaient autour de la table avec moi se disaient mais c'est pas possible à quel point elles mangent, parce que ça se voyait pas physiquement. Enfin, aurait pu imaginer que c'était pas le cas.
Par semaine, en même temps, tu brûles je sais pas combien de
et voilà,
milliers
et je mangeais
de calories.
Beaucoup. Et en fait, depuis l'Antarctique, c'est ça qui est très étonnant, c'est depuis que j'ai connu cet épisode de faim. Mon corps réagit plus de la même manière. Et aujourd'hui, et ça c'est juste extraordinaire, c'est qu'en fait je peux faire des courses sur ultra distance. Déjà en ravitaillement, je me ravitaille pas beaucoup. C'est-à-dire que toute la compétition pendant 24 heures, je mange pas beaucoup. Et pendant l'entraînement, je mange pas plus que ça. Alors est-ce que mon corps en fait a connu une période de faim où il se dit mais en fait il peut revivre ce genre de choses, et donc aujourd'hui il s'est adapté, je sais pas. Mais pour moi, il y a eu un avant et un après sur l'alimentation.
D'accord.
Et donc je ne connais plus. Alors au début ça m'a inquiétée, parce que je me suis dit mais tu n'as pas plus faim que ça, donc ça veut dire que tu t'entraînes pas assez. Donc du coup je me remettais un peu plus, et c'est vrai que j'ai eu au début j'ai pas compris, puis j'ai accepté. Je me suis dit que probablement ça venait de là. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon explication. Voilà. Mais oui, effectivement, la nutrition est super importante. Ouais. Et il y a des choses, typiquement, si on veut réussir un 10 km marathon, il ne faut pas manger un croissant juste avant.
Oui,
il y a des petites choses à manger plus que d'autres. Enfin, il faut éviter certains aliments. Enfin, voilà, il y a des petites choses pour éviter d'avoir mal au ventre, quoi.
Bah écoute Stéphanie, merci mille fois en fait d'avoir pris le temps, c'était vraiment passionnant. Je te jure,
merci.
J'ai vraiment encore plein de questions à te poser, c'est un peu frustrant, mais je veux pas te prendre trop de temps quand même. Je voulais juste terminer par te poser des petites questions sur un peu les causes que tu soutiens. Enfin, après t'es pas obligé de répondre, mais je sais que du coup notamment l'expédition en Antarctique, tu l'as fait pour soutenir un certain nombre d'associations. Je sais pas si tu veux en dire deux mots. Et puis ensuite, si tu as un dernier message à faire passer, n'hésite pas, c'est le moment.
Alors, à chaque fois que je pars sur une expédition ou une compétition originale, qui dit original dit plutôt à l'étranger ou original par son concept ou son montage. Je soutiens l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades. Donc il est possible via mon site de soutenir l'association. C'est une très belle association qui est localisée à Paris et qui existe depuis plus de 25 ans, qui a été créée par Dominique Bail et qui a pour objectif de réaliser des rêves d'enfants malades. Donc elle suit un enfant du début de la maladie, elle peut le suivre pendant plusieurs années, réaliser plusieurs rêves pour lui. C'est une très belle association. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour l'association, déjà parce que quand j'étais à HEC, j'étais dans une association un peu semblable qui avait un peu le même objectif. Puis le fait de se soigner par le rêve, je trouve ça extraordinaire, parce que ça permet de se projeter sur quelque chose de positif et non pas uniquement sur des journées à l'hôpital ou sur la maladie. Et puis, les personnes qui ont fondé l'association et qui aujourd'hui travaillent dans cette association sont juste remarquables. Donc, j'ai pas mal d'affinités avec ces personnes-là. Et donc, j'ai eu un coup de foudre pour cette association. Et du coup, j'ai envie à chaque fois de collecter des fonds. Donc, j'ai collecté via mon site lors de cette expédition à l'Antarctique. Et je mettais, donc, par exemple, le nom des personnes qui donnaient sur les skis, sur la tente, sur le blog. Certaines personnes ont vu leur nom aussi écrit dans les glaces de l'Antarctique. Donc, c'était le genre de contrepartie que j'offrais aux donateurs. Et puis après, moi-même, j'ai créé une association pour promouvoir les régions polaires. Donc, j'interviens souvent dans les écoles pour faire connaître ces régions, pour faire connaître la beauté de ces régions, pour parler de ces régions et pour en parler différemment, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, mais encore une fois, j'accorde beaucoup d'importance à l'expérience. J'ai connu ces régions, j'y ai été, et donc il y a des choses dont je prends plaisir à parler. Et je pense aussi que faire connaître grâce aux images permet de sensibiliser, permet de donner un élan, en fait, notamment aux jeunes, un élan vis-à-vis de la planète qui peut être plus important que simplement des discours qui vont être politiques. Donc aujourd'hui, j'ai cette envie-là, et donc j'ai trois expositions qui circulent dans les écoles, trois expositions de photographie. Voilà.
Génial. Bah écoute, je mettrai tous les liens en fait sur le blog du podcast, comme ça, et puis j'en parlerai en intro aussi pour que tout le monde puisse aller regarder tout ça.
Parfait.
Et écoute, je te remercie mille fois. La dernière question, c'est si jamais on veut te contacter pour te poser des questions ou juste te dire bravo ou voilà, c'est admirable ce que tu as fait, quel est le meilleur moyen de le faire? Sur LinkedIn peut-être, on en parlait juste avant de commencer, ou peut-être, je sais pas, bah, je sais que tu as une page Facebook aussi.
Alors, LinkedIn, c'est le meilleur moyen, ou bien mon site internet stéphaniegiquel.com, le formulaire de contact. J'ouvrirai peut-être un jour, mais les réseaux sociaux, c'est encore une autre aventure. C'est une très très belle aventure, mais qui est très preneuse en termes de temps.
C'est sûr, tu parles beaucoup d'informations.
Voilà, j'aimerais ouvrir Instagram. Peut-être ça reste dans un coin de ma tête, ça c'est une envie que je n'ai pas encore mise en œuvre. Mais j'ai tellement de photos de courses à pied dans tout plein de régions, tout plein de pays.
Ça serait magnifique.
J'ai cette envie, mais aujourd'hui il n'y a pas encore. Donc si vous voulez me contacter, c'est plutôt LinkedIn ou stéphaniegiquel.com. Voilà.
Ça marche. Bah, merci mille fois Stéphanie.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Hello à tous. Alors, quelques petites dernières choses avant de vous quitter. Déjà, j'espère que l'épisode vous a plu, bien évidemment. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, le livre de Stéphanie par exemple, c'est simple, vous pouvez aller directement sur le blog du podcast. Alors, pour l'instant, j'ai pas changé encore l'adresse. C'est www.podcast-du6crème-de-la-crème.com. Il est possible que je change du coup et c'est rubrique podcast. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, évidemment n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire sur Twitter ou sur Instagram, j'essaye d'être réactive et mon pseudo c'est @pelaignau, PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me pose des questions. Voilà, comme à chaque fois, je voulais vraiment vous remercier mille fois, vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici, bien évidemment. Et n'oubliez pas, si le podcast vous plaît et que vous appréciez tout ce travail, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aide beaucoup, ça donne le moral en plus et ça m'aide à faire connaître ce travail. Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.